Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de La Cellule aujourd'hui pour notre 16e saison, début de la 16e saison. Et oui, nous sommes après l'été. Hein.
Est-ce qu'il faut lever le bras ou pas?
Ah bah on ne sait pas encore. Quand on enregistre ce podcast,
vous savez où acheter vos bottes et vos tenues marron
Je ne sais pas. Vos okay. bottes, en tout cas on va parler des bottes, mais peut-être pas ceux-là, vous entendez
oh,
parler
non.
d'IA.
Pitié.
Je suis désolé, c'était une mauvaise blague. Bon alors Natacha, bonjour, ça va la pêche?
Oui, ça va.
C'est toi qui nous amène ce sujet de podcast. T'as envie de parler de ton expérience de jouer l'autorité en jeu de rôle en tant que joueuse, c'est bien ça?
Exactement. Je
ne me trompe pas. Nous sommes avec Adrien Cahuzac, bonjour.
Salut.
Ton oncle a toujours de l'argent caché en Suisse.
Je crois qu'il veut se représenter.
Oui, je suis au courant.
Il a peut-être même été élu. Oh, quelle horreur.
Alors nous parlons, il a peut-être été élu. Ah, Qui sait? Qui ça, ça. Nous sommes avec Lucas.
D'ailleurs, dans le futur, vous pouvez nous donner des nouvelles aujourd'hui d'Eric Ciotti, parce que vraiment, on se pose beaucoup de questions.
Lucas. Oui, c'est vrai qu'on se marre bien. Bonsoir.
Lucas, est-ce que tu pourrais peut-être te représenter pour nos interlocuteurs? Parce que toi, Adrien, Natacha, on les connaît par cœur. Mais toi, on t'entend assez rarement. Hein.
Okay,
Shadow Island, t'as participé au dernier
ouais,
podcast de cette saison, bien sûr, mais pas de la saison précédente.
Ok, c'est compliqué de se présenter comme ça, mais...
Tu joues à quoi?
Ouais.
À quel genre de jeu
okay,
tu joues?
Bonne question.
À quoi tu joues?
Je suis rôliste, la preuve, à la fin de la saison dernière, du coup, c'est ça.
Ouais,
on entend dans le podcast sur la campagne de Trip to Sky que Antoine nous a fait jouer avec Natacha et Céline.
Ouais. T'as entendu dans le Shadow Island aussi.
Je fais du GN, voilà, ouais. Même si récemment je fais quand même beaucoup plus de jeux de rôle que de GN. Je suis surtout plus un joueur.
T'es un roro, toi, non, c'est ça?
Je suis pas un roro. Non. Je suis pas vraiment un roro, non.
Non,
j'ai fait du Cthulhu, j'ai adapté dans mes jeunes années, hein. Mais
tu prends Cthulhu et t'adaptes, c'est ça?
Ouais, un peu, ouais. Non, maintenant, j'ai plus des pratiques hipster.
Anard,
exactement.
Courant alternatif, tout ça.
Ouais, c'est ça, mais sans, Je suis pas ni auteur ni très présent sur la scène rôliste, quoi. Enfin, je joue sobrement.
Comment t'as rencontré
tout,
ce
quoi.
Groupe-là?
J'ai
moment, on
fait
s'est
ah ouais,
le groupe
par beaucoup de rebonds. Ouais. Moi, j'ai fait du GN avec Morgane, qui m'a ensuite invité chez elle un jour, et donc j'ai rencontré Maxime. Je suis resté très ami avec Maxime et Morgane, y allant plusieurs fois, qui m'a fait venir une fois à Shadow Island quand il l'a organisé. J'avais déjà rejoué plusieurs fois, j'ai fait du GN et du jeu de rôle avec Maxime. On avait joué à des mécoms avec Maxime et Céline. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Céline. Maxime nous avait fait jouer avec Antoine à Braquage et j'ai rencontré le reste d'entre vous, je pense, à
Shadow Island,
sauf Valentin.
Moi, c'est là que
j'ai rencontré après. Enfin voilà, ça s'est fait un peu par rebond.
C'est excellent.
Comme ça.
Trop bien.
Voilà.
Eh bien, merci d'être à nouveau présent parmi nous.
Ça me fait très plaisir
de te recevoir. Je voulais dire aussi, faire une petite incise ici, que la dernière fois, dans une dernière interview, j'ai dit de Morgane qu'elle faisait des études de boulangerie, mais tu m'as appris
oui,
récemment
non.
qu'en fait, elle avait changé de secteur et qu'elle était revenue
au jeu de rôle,
de, je sais pas comment le dire.
Bah,
Ce sont des escape games.
Oui, c'est ça, elle bosse en escape game à l'antichambre à Paris. Allez-y et dis-lui bonjour.
Exactement, c'est une occasion de lui faire un bisou au passage et de plébisciter cette activité, c'est super cool. Et puis justement, puisqu'on parle d'escape game, on en a un à côté de nous là, Antoine Morgan Thaler.
Bonjour, bonsoir.
Toi, c'est ton métier, toi.
Ça, oui, bah toi aussi, c'est ça.
C'est ton métier l'escape game maintenant.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Depuis 3 ans.
De quoi? C'est Antoine Morgan Thaler est une
escape. Attention, s'échapper de moi n'est pas sans risque.
Le chien géant, c'est lui.
En tout cas, ça va très bien.
Ça commence bien cette saison, c'est moche. Nous sommes avec Céline également. Céline, salut, ça va la pêche?
Salut, ça va?
Ah putain, la première bière renversée de la saison sur le carnet. Oh là là, un carnet. Oh là 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 là, une bière renversée sur un carnet.
Et quelle idée de mettre la bière aussi près du fil et du micro.
Ça, alors là, si Antoine Chauvière nous écoute, il va rire. Il va rire. On parlait de la probabilité et des statistiques vis-à-vis du renversage de bière sur les tables. Et si, parce que comme nous jouons à Magic régulièrement,
Il se trouve que nous évitons de mettre les bières sur les tables parce que là, les bières Magic, les statistiques, tout ça, c'est pas bon. Ça, alors, je suis désolé, Valentin, ça commence bien mal cette saison pour toi.
Salut.
Alors, il y avait quoi dans ce carnet, Valentin ? Raconte-nous tout.
Des notes du précédent podcast.
D'accord, ok. Ça va, c'était.
Je vais vous montrer mon carnet.
Non mais je veux dire ça va, t'as pas tout perdu, tu vois, c'était
pas
tard.
Par contre moi je joue à Magic avec des bières sur la table, parce que je sais j'utilisais mes mains quoi.
Ah oui ouais, la preuve.
Alors c'est pas moi qui ai renversé la bière, pardon mais...
Alors ça génère quel mana la bière exactement parce que...
Mana, je ne sais pas, mana rouge.
J'étais en train de parler dans mon verre de bière moi.
C'est du blanc, je pense.
C'est du blanc, peut-être.
Mais la blanc, non.
Bah, si, est-ce que houblon, la prairie, tout ça, je crois bien. Ouais, si, je crois qu'il a raison. Les hobbits et tout, c'est du vert blanc. Donc la bière serait vert blanche, à mon avis. On va essayer de repasser la parole à Céline si on y arrive. Elle est en train de se dépatouiller avec la bière. Alors, Céline,
oui.
même question pour toi, quand même, que pour Lucas, un petit peu. Il faut que tu te représentes, parce que nous, on est vieux briscards. Mais... T'as entendu dans Shadow Island aussi ?
Oui, j'ai participé à quelques podcasts, quand même, un playtest de Toi qui aussi. C'est pas le sujet que moi j'avais amené, je crois.
Et
que
si, ça, c'est
l'exemple.
Bon, ça. Quel beau jeu. Effectivement.
Je suis joueuse de plein de trucs, playtesteuse, même si l'IA est clairement une menace sur le fait de faire des playtests.
Valentin justifiera ça. Je vais te demander d'en parler de ça.
Et membre des. Aussi, ou pas j'ai fait un petit peu de gêne aussi, bah, typiquement braquage aussi avec Lucas, Shadow Island.
Des excellents jeux.
Que des excellents jeux. En fait, que les gènes proposés par Maxime et Lucas. Hein, voilà. Surtout. Voilà. Et puis, membre du rayon alternatif.
Ouais,
qui
voilà,
reprend une
ça.
Partie des courants alternatifs et qui propose un certain nombre de jeux sur des stands dans des conventions.
Trop bien. Ok, super. Voilà. Donc, avec des gens comme. Comme Martin,
oui, par exemple, Eugénie, comme Martin, Eugénie qui représente aussi. Dystopia. Je sais pas, on est 12 membres.
C'est génial hein, cette initiative. Ouais, c'était déjà génial du temps des courants alternatifs, mais l'idée du rayon alternatif,
disons
évidemment.
Que, ouais. On a fait un petit
très bon prolongement.
Un petit noyau.
C'est bah, nickel.
On sera à Octogone comme tous les ans. Je pense que ça.
Ça se rapproche.
C'est pertinent.
Ouais. du coup, ça se rapproche, tu vois. On est plus proche d'Octogone à la diffusion qu'à l'enregistrement. Bah super, c'est merci pour cette présentation. Et donc Valentin, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
À laquelle ?
Parce que en fait, ce qu'il
y a
faut
la bière,
dire,
il y a Magic.
Ok. Parce qu'en fait, donc ce qu'il faut dire aussi, c'est que Céline et toi, vous êtes les grands playtesteurs, inventeurs du basque et avec Simon Lee. Maintenant, si mes souvenirs sont bons.
Ouais.
Voilà. Et donc là, tu parlais tout à l'heure de faire playtester tes jeux avec des IA maintenant,
ouais.
Et plus avec Céline.
Ah oui.
Qu'est-ce que c'est que
attends, quel rapport avec la pelote basque là ? Je crois que je suis perdu.
Non, le basque. Donc le bac à sable du quotidien.
Non, bah, en fait, donc moi je suis un utilisateur quotidien des intelligences artificielles.
Je
dans
trouve
mon
c'est
travail,
très bien pour présenter Valentin.
Et dans d'autres. Ouais. Je ne suis pas un robot, je précise.
Pas un robot.
Et donc j'ai beaucoup apprécié développer le Bax, notamment avec Céline, qui m'a beaucoup aidé à playtester mes jeux. Donc m'a donné des retours réguliers sur mes prototypes de jeux, des crash tests. Ah. Elle est toujours là au rendez-vous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, grâce à l'IA. en fait, j'ai la possibilité maintenant de playtester mes jeux.
Non, mais l'IA, c'est.
Seul.
Ouais. Sans
avoir besoin de Céline, en fait.
Ok, il faut savoir que Valentin a déjà publié un jeu, donc Chimère.
Généré par IA, ouais, Chimère Artificielle.
Chimère Artificielle qui est généré par IA.
C'est ça, avec la version de GPT-3. Je pense que ça serait bien meilleur encore que. Maintenant qu'il y a de nouvelles versions de GPT. Et donc la technique que je développe, c'est juste de donner le PDF à l'IA et de non pas lui demander d'être meneuse, mais d'être joueuse. Et donc moi, je peux être meneur pour une joueuse simulée. Donc je simule Céline, je peux même proposer une description de Céline pour avoir éventuellement un comportement, tu vois, qui ressemblerait à Céline et donc pouvoir te tester.
Pour achever ce portrait de toi, parce que je crois que vraiment en te laissant parler, on rappelle que tu es aussi co-auteur de Minuit pour toujours, qui est un jeu très sain aussi.
Oui, tout à fait, non, avec Adrien notamment.
quand je pense que c'est moi qui ai le thème de Tom Jeduzor dans les podcasts, quoi.
Si tu veux, je peux le lui mettre aussi, hein. Un peu plus robotique peut-être, ou généré par une IA, je ne sais pas. Merci beaucoup en tout cas Valentin d'être là pour parler aujourd'hui avec nous de ce thème sur jouer l'autorité dans une partie de jeu de rôle. Et c'est problématique pour beaucoup de personnes, ce rôle de capitaine, de commandant. Et on le sait, puisqu'on a, les auditeurs ont écouté, auditrices ont écouté le podcast de la dernière saison, qui clôturait la dernière saison, que tu as été capitaine à Trip to Sky. Et j'imagine que c'est aussi cette expérience-là qui motive ce podcast. Alors raconte-nous.
En effet. Donc en fait, ça vient de deux expériences personnelles et puis d'autres choses que j'ai pu observer chez d'autres joueurs-joueuses. Donc une campagne menée par Maxime de Billy Dacier, de Vivi Féasson. Où j'étais, enfin j'ai démarré en fait, je n'ai pas été toute la campagne du tout chef de l'équipe des PJ, donc j'ai fait le premier scénar chef d'équipe de PJ et après ça s'est mal passé et ensuite donc toute la campagne de Trip to Sky où j'étais capitaine du bateau et ça a généré un certain nombre de situations où la joueuse devait incarner le personnage, enfin je devais incarner le personnage et prendre des décisions, faire des choses, des actions en tant que figure d'autorité dans la fiction, mais qui était en dissonance avec ce que moi j'attendais du contrat social à la table. Voilà, et en fait, donc, ou des situations où j'étais vraiment pas, enfin, c'est pas que j'étais pas bien, parce que sinon j'aurais vraiment arrêté, mais où j'avais besoin de prendre de la distance, de préciser que c'était pas moi qui exprimais ça, mais vraiment le personnage dans la situation. Et surtout, à un moment donné, j'ai dit, très rapidement, j'ai dit, je vous préviens, la prochaine campagne qu'on fait ensemble, ce n'est pas moi qui joue le chef.
Et quand soudain.
51 scénarios plus tard, elle est toujours le chef.
Ouais, ça en dit long sur ma personnalité. mais en fait, voilà, donc du coup, pardon. Donc du coup, voilà, ça m'a poussé à me poser la question de mais pourquoi je n'avais pas envie, plus envie de jouer ça en fait, ou en tout cas de faire, au moins faire une pause dans ce type de d'archétype là quoi. Voilà, donc le sujet vient de là.
D'accord. Juste un point, est-ce que tu pourrais nous citer un exemple, tu vois, de tiré de la fiction dans lequel tu as eu cette espèce de...
Alors je peux faire ça, sinon j'ai pas un plan mais un truc.
Très bien. Très voilà. Bien.
En fait. Et c'est une sorte de forme de définition de ce que c'est que de jouer l'autorité aussi, en fait.
Ok, vas-y.
Donc, en fait, en gros, c'est... On a une équipe de PJ assemblée pour une raison ou une autre, une team de soldats pour de billets d'acier, un équipage de bateaux pour Trip to Sky, et ça peut être défini dans d'autres situations aussi. Les Bugs, dans le sens, ont un capitaine. Voilà, enfin, il y a plein de situations où ça peut apparaître. Et donc on attend de ce personnage généralement, puisqu'il est figure d'autorité, de donner des ordres, de punir ou sanctionner, enfin en tout cas de poser des limites et de faire respecter ces limites dans la fiction, donc de punir ou sanctionner quand les limites sont dépassées, transgressées, et d'être la référence en termes de décision aussi.
Ouais.
Et deuxième effet qui se coule de ce dernier point, non seulement être la référence en termes de décision, mais en plus être chargé de l'annoncer à tout le monde, y compris les PNJ, quand l'équipe dirigée par le chef est non seulement les PJ autour de la table, mais aussi les PNJ, dans un équipage de bateau, par exemple.
Alors j'ai deux questions là-dessus. C'est juste pour comprendre un petit peu la problématique. La première, c'est... En fait, ça va être... Qu'est-ce qui te pose problème entre l'autorité et autre chose ? Donc, le premier point, c'est... Qu'est-ce qui te pose problème entre jouer l'autorité ou être au centre d'attention des projecteurs ? Est-ce que c'est le fait... Est-ce que l'autorité, ce qui te pose problème, c'est le fait d'être au centre de l'attention et qu'en fait, t'as beaucoup de responsabilités sur tes épaules et que tout le monde attend quelque part là-dessus, ou c'est un problème plus... Enfin, différent ou plus diffus ou autre chose ?
Ça en fait partie. C'est un des problèmes. Mais ça, c'est un des problèmes pour moi de... effectivement, ça veut dire que je suis au centre des projecteurs et que, par exemple, il va falloir que je fasse un certain nombre de discours d'annonces en performance.
En performance ?
Oui, dans le sens où il faut que je m'adresse les autres PNJ se tournent vers moi et me disent bah maintenant on a pris la décision d'aller à tel endroit avec tel danger potentiel, maintenant il va falloir que tu l'annonces et que tu l'expliques à l'équipage. Vas-y, on te regarde.
D'accord. Okay. Et donc la deuxième question, c'est de ce que tu disais à un moment donné, j'avais l'impression que on pouvait l'analyser comme c'est pas tant l'autorité qui te pose problème, mais le fait de devoir être jugé pour jouer un personnage qui a des valeurs morales ou des... Bah, qui est différent de toi, en fait.
Et alors, ça en a fait partie aussi, mais c'est pas le... Je te propose qu'on prenne point par point, okay. Parce qu'en fait, voilà. Et donc, pour répondre à ta question tout à l'heure de Romaric, d'un exemple précis où ça m'a vraiment posé problème, c'est sur le poser des limites et qu'est-ce qui se passe quand elles sont pas respectées. Sur la campagne, quand on a démarré, Fabien et Céline, donc Fabien était encore joueur et Céline était joueuse, donc. Les deux personnages, je sais plus qu'est-ce qui s'est passé, mais font de la merde et ne respectent pas les consignes qui avaient été données ou mettent en danger l'équipe. Enfin, je sais plus ce qu'ils font, mais en gros, ils respectent pas les limites données dans les règles du bateau. Et donc, réflexe de capitaine, bon bah, du coup, les gars, c'est vous qui êtes de quart et vous allez pas vous amuser en ville comme les autres, quoi. Donc voilà. Et là j'ai arrêté et j'ai dit bon, ça c'est ce que vous dit le capitaine. Maintenant la joueuse elle vous dit faites ce que vous voulez du moment que vous trouvez ça intéressant dans la fiction en fait.
Ah, intéressant. Ouais.
Parce que en fait en faisant ça, en leur disant vous êtes deux quarts et vous restez sur le bateau, je les privais d'une interaction possible et d'une scène possible dans la ville avec d'autres PNJ, d'autres PJ, etc.
Ouais, mais tu leur crées d'autres opportunités. Le fait de bitcher sur toi à bord du bateau.
Bah, je pense que c'était pas forcément plus intéressant. Et après, ils auraient pu le faire. J'ai juste dit, la seule chose que j'ai dite, c'est vous en faites ce que vous voulez, quoi. Vous avez aussi le droit de transgresser au bout d'un moment et de.
Et en plus, je crois que dans le contrat social de Trip to Sky, il y a une histoire de les PJ doivent pas être séparés ou dans des espaces de lieux de temps différents.
Ce que tu dis, c'est pas ça. Ils peuvent être séparés, mais ils peuvent à tout moment survenir dans n'importe quelle scène.
Ah, d'accord.
On arrive toujours à trouver un prétexte pour dire ils arrivent.
D'accord. En tout cas, je vois le côté border de la sanction qui peut potentiellement aller contre un contrat social ou contre de la gentilité d'un joueur.
Et puis contre une potentialité de créer de la fiction aussi.
Ben, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Sur contre de la gentilité d'un joueur, oui, mais contre le fait de créer de la fiction,
Ou alors créer de la fiction dans le canon attendu par le jeu. Parce que bitcher le capitaine...
C'est compliqué, parce que si le jeu crée un poste d'autorité, quelque part, il accepte les conséquences de ce poste d'autorité. Enfin, ou alors, c'est qu'il y a une faille dans le game design, tu vois, enfin, ou qu'il n'y a pas d'explication
mais
de quel est le rôle attendu
du capitaine.
C'est
peut-être de ça dont on va parler, justement. C'est que c'est peut-être un rôle qui fait bugger des systèmes de jeu.
Ah bah,
je sais pas, mais je pense que...
Alors,
eh ben,
enfin,
c'est
peut-être
c'est
là où on va.
C'est pas impossible, si, parce que l'autre point qu'on peut aborder, ça rejoint ça, justement, mais...
Alors vas-y.
Alors l'autre point, c'est ça implique aussi de donner des ordres, notamment en tant que capitaine. Va à la barre, affronte tel personnage. Moi je me charge de lui. Toi fais ça. Non, arrête, ne frappe pas ce PNJ. Ce qu'on a eu d'ailleurs, en fait, comme situation très précise. Et en fait, ça veut dire que du coup quelque part, l'autorité que tu mets en place en tant que personnage, elle devient aussi en fait. Dans un certain sens, une autorité que tu prends sur le personnage de l'autre joueur. Mmh. En gros, je me retrouve pas à jouer et plaider pour l'autre personnage, mais pas loin. On est dans une limite qui est un peu borderline, quoi. C'est une décision que je prends presque à leur place, ou en tout cas que j'influence très fortement, ne serait-ce que par le fait de la prononcer, quoi. Donc voilà. Et du coup, là, dans ce sens-là, ça peut éventuellement, je pense, faire bugger certains systèmes, c'est vrai.
J'ai l'impression, sur cet exemple que tu donnes, quelque part, c'est un peu ma réponse de Normand, mais que quand il y a une figure d'autorité, en fait, les ordres qu'il donne, la plupart du temps, si on se met du point de vue du personnage, souvent, elles sont censées, en fait. Le capitaine va rarement donner des ordres qui sont complètement contradictoires avec ce que les gens estiment...
Adrien, je sais pas, parce que si toi tu avais été sur la table par exemple et que c'était moi qui étais en posture d'autorité, je ne sais pas si on aurait eu la même campagne. Parce que je suis sûr qu'il y a des moments où j'aurais pris des décisions que t'aurais pas jugées comme les plus optimales, tu vois.
Mais alors, attends, qui, moi ou mon personnage?
Toi, mais de fait.
Valentin, vas-y. Hein.
Ouais, sur ce truc de la gentilité, moi j'aurais tendance à te suivre quand même, Natacha. J'ai l'impression que quand t'as une posture d'autorité dans la fiction et dans la vie, en fait, tu assujettis ton agentivité à la figure d'autorité. C'est le principe, en fait. Et que, quelque part, c'est in-design, quoi. Mais alors, du coup, c'est une question peut-être pour Romaric, mais ou pour les designers. En fait, quand on met en place une relation d'autorité, en fait, ça donne plus de pouvoir à quelqu'un, de facto, quoi. Ouais. Parce que, dans la fiction, cette personne a la capacité de demander. Et en fait, est-ce que le problème de l'autorité, c'est un problème général, en fait? Qui est que quand on donne plus de possibilités d'action en fait à un joueur, parce que c'est comme un don dans un jeu, quoi. Ouais, t'as la capacité de faire ce truc que les autres n'ont pas la capacité de faire.
C'est une note que j'ai notée dès le début.
Après, ouais. est-ce que c'est un problème? C'est-à-dire que, quelque part, moi, je vois ça comme une opportunité de gameplay, où on rend la situation asymétrique, on accepte le fait que la personne qui est dépositaire de l'autorité, elle a cette possibilité-là, elle a un gameplay particulier. Les autres ont un autre gameplay en miroir, de pouvoir essayer de louvoyer ou de composer avec. Mais quand même, ça produit une asymétrie qui est forte. Du coup, le gameplay est fort, mais c'est quand même un choix de design qui est très très orienté. C'est pas juste comme un élément esthétique. Il se trouve qu'il y a un capitaine. En fait, ça a une grosse conséquence en termes de dynamique de jeu, quoi.
Oui, et en fait, je trouve que c'est pas ressenti de la même manière selon les jeux et selon les univers. J'ai parlé tout à l'heure de sens sur le fait qu'il y a un capitaine parmi les Bugs. Moi, j'ai toujours trouvé ça très anecdotique. Hein. Le capitaine dans les Bugs, on le tutoie, il a le même âge que nous.
Et pourtant.
Ouais, bah en fait, en tout cas, sur les tables que j'ai vues, c'est très. Enfin, ou sur lesquelles j'ai joué en tant que joueuse, ça n'a jamais été vraiment un enjeu.
Alors.
C'est pas la même chose quand on est dans un contexte militaire où, par exemple pour le 2 billets d'acier, donc déjà il y a un contexte militaire qui fait qu'il y a une hiérarchie qui s'installe, parce que c'est un vrai grade en fait donné. Mais malgré tout, on est sur la même tranche d'âge, et il y a toujours encore en plus une autorité des adultes, donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes rapports. Et c'est encore du coup différent dans Trip to Sky, où là par contre on est dans le microcosme du bateau, et les PNJ et même certains PJ vous voient en plus le personnage du capitaine. Ouais. Et ça c'est très particulier.
Luca.
Il y a un enjeu de pyramide de décision qui est un peu différent aussi, parce que si on garde l'exemple de Sens, moi j'ai fait jouer mes PJ sans désigner de capitaine, parce que je savais que c'était pas quelque chose qui allait parler à
mes
joueurs
et joueuses.
Et le
simple fait que tu aies pu faire ça montre que c'est anecdotique.
Et en fait, ça m'a semblé très anecdotique, parce que ça aurait plus fait dysfonctionner leur dynamique sociale, où ils avaient envie d'avoir du débat entre eux, que de mettre une personne qui pouvait trancher au sein du groupe, alors que par ailleurs, pour faire fonctionner le jeu, j'en avais pas besoin, puisque j'ai Gladius, puisque j'ai Solipsis, puisque tout ça. À l'inverse, dans Trip to Sky, est-ce qu'on aurait pu se passer d'une figure d'autorité, considérant la manière dont le monde est supposé fonctionner, c'est-à-dire il y a des bateaux, dans les bateaux il y a des capitaines, mais sauf qu'en fait, dans le bateau on est tout seul, soit il y a un PNJ et donc le MJ qui endosse cette posture d'autorité, soit il faut bien que quelqu'un l'apprenne, mais...
Alors pas forcément, alors dans le cas de Trip to Sky, ça serait tout à fait ok de dire c'est un bateau de la pensée et là-bas l'autorité c'est ce que c'est, quoi.
Ouais.
Donc ça serait ok. J'ai l'impression qu'entre Sens et Trip to Sky, la nuance elle vient du fait que dans Sens, les personnages débarquent au tout début, c'est leur première mission, et donc le titre de capitaine, il n'est pas acté, il n'est pas chargé symboliquement. Donc oui, c'est celui auquel les PNJ vont s'adresser en tant que capitaine, machin. Peut-être qu'à un moment donné, si les persos ont des différents, peut-être que le capitaine peut servir d'arbitre, mais c'est léger. Dans les navires, capitaine, c'est dû à bord, ça fait partie des locutions communes, le capitaine à bord d'un bateau, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est ultra puissant. Donc c'est clair que c'est pas du tout la même fonction qu'on attend.
L'autre truc aussi différent pour Deux billets d'acier, c'est que le capitaine, ça va être aussi une source de problème en fait pour l'aversité. Et en plus, il y a, il me semble, vous allez me confirmer les autres, un archétype, un prétiré, pas un prétiré, mais un, je sais comment ça s'appelle, un profil, un livret, merci, qui est l'autorité, je crois. Me semble-t-il, ou l'obéissance. Non, c'est l'obéissance. Mais l'obéissance, c'est souvent, pareil, souvent se retrouve à jouer le capitaine de l'équipe. Et en fait, ça va être une source de problème pour l'adversité qui va justement mettre ce capitaine-là face à ses problèmes d'être entre le marteau et l'enclume et de devoir gérer à la fois la team d'ados un peu rebelles et les gens qui donnent des ordres au-dessus, quoi. Donc ça va être encore différent parce qu'en plus, ça va être une source d'enjeu dans la fiction.
Antoine,
je vais répondre après, t'inquiète.
Ok. Moi, ça me faisait penser que justement sur une des campagnes qu'on avait commencé récemment, qu'on n'a pas beaucoup avancé Trip to Sky, on s'est retrouvé avec cette situation justement où habituellement c'est un personnage qui est assez peu présent, l'armateur. Et là, on avait la capitaine du bateau qui était vraiment coincée entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que vraiment son armateur était un connard fini qu'il avait mis là parce qu'il la détestait. Et donc je pense que là, la position de capitaine était peut-être problématique à jouer, mais beaucoup plus facile à défendre hors fiction avec les joueurs parce que tu pouvais parler, t'avais un prétexte quelque part à cette position.
Pour autant, il faut préciser quand même que la joueuse n'était pas non plus tout le temps très bien et qu'elle a eu des soucis pour le faire. Hein.
Mais c'était mon objectif en fait en mettant Starmater horrible. Hein.
J'ai l'impression que pour l'instant, tous les exemples qu'on cite, la raison initiale en quelque sorte pour laquelle il peut y avoir des capitaines, c'est d'abord une raison plus de fiction, de cohérence et de canon esthétique. Voilà, il y a un capitaine chez les marins, dans un truc militaire, un capitaine et tout. Et que dans un deuxième temps, les jeux se sont posé la question ou pas de, au fait, ça change les dynamiques, le gameplay, comme Valentin l'a dit. Mais là, ça, c'est peut-être la deuxième raison qui arrive après. Et du coup, au cas par cas, ça crée cette asymétrie. Mais le contrat social derrière, en fait, c'est le contrat social qui va être central pour voir est-ce que c'est, voilà, le capitaine, c'est aussi esthétique que possible, c'est plus pour la classe, pour l'ambiance, etc. Pour faire semblant, en quelque sorte. On fait semblant d'être capitaine, mais de fait, entre les joueurs, le contrat social supplante à ça en disant vous êtes un peu libre et tout. Donc ça va, en fait, quelque part, au minimum, la présence du capitaine, ce qu'elle peut avoir de, pas forcément de vertueux, mais enfin comme effet problématique ou pas, c'est d'amener des questions de contrat social, en fait, d'amener les joueurs à se dire ok, vu qu'il y a un capitaine, on est obligé de parler de jusqu'où il peut aller, qu'est-ce qu'il peut prendre comme décision, et à minimum ça a cet intérêt là, alors qu'une équipe horizontale pourrait faire par défaut sans en parler même de l'idée de l'autorité ponctuelle ou non. Encore plus dans un jeu comme De Billets d'Acier où l'autorité peut changer du jour au lendemain. On a eu beaucoup ça, nous, où l'autorité supérieure des adultes, du jour au lendemain, si le capitaine faisait une bourde, disait bah t'es plus capitaine, c'est l'autre dans l'équipe qui est capitaine. Et donc ça, on testait des dynamiques différentes et ces postures-là,
ça c'est du point de vue méta, ouais. Mais au-delà de ça, même in-game, c'est la question de la responsabilité, tout simplement.
Ouais, ouais.
Qui est responsable? Tu vois, l'un fait une connerie, du coup, il y en a un qui va se faire taper sur les doigts. Enfin, tu vois, ça pose des questions de justice, d'injustice, de responsabilité. Ouais. Ça peut introduire des...
Puis même, ouais, plus largement, de management, de suivi, de soutien aussi. Si tu vas dans des styles de capitaine, on a beaucoup parlé de côté donner des ordres, mais dans ce côté responsable, il y a aussi cette idée, un capitaine peut dans cette posture de gérer tout le monde à bord ou dans l'équipe. Gère bien ce qu'il fait, tu vas peut-être plus être encouragé à t'intéresser au PNJ à la manière d'un personnage médecin, pas sous le même angle, mais ouais, voilà, c'est une espèce de rôle qui t'invite à gérer les autres.
En fait, j'avais noté vraiment la même idée que Valentin au début sur cet aspect de la fonction d'autorité, c'est un talent, ouais, un tweak, un truc particulier de ton perso, et en fait le mentaliser comme ça, ça permet de se rendre compte qu'en fait on va pas tous jouer exactement au même jeu, c'est toujours le cas en fait. Personne ne joue exactement au même jeu parce qu'on a le jeu de notre personnage. Et en fait, le capitaine aura des problématiques de capitaine, les matelots auront des problématiques de matelots. Et quand tu rentres là-dedans, quelque part, le fait qu'on dise qu'il y aura un capitaine, c'est... Enfin, les personnages qui ne sont pas capitaines acceptent le fait que, ben, des fois, le capitaine va donner des ordres. Et c'est dans l'ordre naturel de la fiction. Leur degré de liberté autour de ça, ils disparaissent pas non plus. C'est juste que... Et puis, en fait, c'est aussi simplifiant en tant que joueur de se dire, il y a des moments où c'est pas moi qui suis en responsabilité.
Ouais, le pendant de ça, c'est que par contre, l'autre qui est en posture d'autorité, bah, ça simplifie rien du tout pour lui, quoi. Et en fait, ça pose problème aussi parce que du coup, ça veut dire que c'est toujours à toi d'avoir en premier les idées. Ça veut dire aussi que les autres vont pas forcément... Enfin, tu sais pas jusqu'à quel point les autres vont pouvoir formuler leurs idées spontanément, de manière aussi...
Pourquoi ils te suivent? Est-ce qu'ils te suivent parce que t'es le capitaine et uniquement pour ça? Ou est-ce qu'ils vraiment ils trouvent l'idée de Natacha bien?
Oui, alors ça c'est vrai.
Qui ils suivent en fait? Est-ce qu'ils suivent le capitaine ou est-ce qu'ils suivent Natacha,
ouais,
tu vois,
ouais.
N'hésite pas à prendre la parole, Valentin, ouais, parce que t'as plusieurs fois levé le micro.
Non, pardon, mais enfin, ça m'interroge, tout ça m'intéresse énormément.
Bah oui, moi aussi.
Mais en fait, est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est une feature, comme on dirait? C'est-à-dire qu'en fait...
Alors c'est quoi? Vas-y, fais la
Ce que je veux dire, c'est... En gros, j'ai l'impression que toi, tu soulignes les éléments qui du coup posent problème. Et pour moi, ces éléments-là sont l'intérêt propre de l'autorité. C'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que tu dis ah mais du coup ça pose des problématiques de prise de décision, ou alors par exemple il y a beaucoup plus de responsabilité sur le capitaine, plus d'agentivité. Mais en fait moi ça m'intéresse de jouer à un jeu où je joue presque un PNJ entre guillemets, où je suis soumis à l'autorité qui va être le PJ de cette histoire. Et moi je trouve ça cool parce qu'on a peu d'histoires comme ça.
Et oui, alors oui, d'accord, mais dans ce cas-là, il faut l'admettre que c'est dans le contrat social et dans le système de jeu.
Mais c'est dans le contrat social.
C'est pas ça qui est annoncé dans Trip to Sky.
Bah, il y aura un capitaine et ça sera l'un d'entre vous. Enfin, je suis désolé, mais pour moi, c'est un sacré contrat social. Hein.
Oui, mais ça n'empêche pas que les autres vont devoir prendre des décisions à des moments.
Mais est-ce que ça rentre pas en contradiction, pardon, mais est-ce que ça rentre pas en contradiction avec la version classique qu'on a du jeu de rôle? Tu sais, où il faut vraiment que tout le monde ait le même nombre de points d'XP, le même nombre de points de création, et que tu sais, ouais, on soit tous équivalents, mais même dans le gameplay, ouais, on peut rendre très asymétrique en fait l'engagement même dans le jeu. Et qui est, bon, qui est
tu ok, vois, admettons, mais c'est en tout cas, ça, hein, il n'empêche que moi je l'ai vécu comme une posture inconfortable.
Ouais, ouais.
Alors, à nuancer, en fait, il y avait des moments où c'était très inconfortable. Et aussi, il y a des moments aussi où j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas, enfin, dites-moi, parce que si vous avez des idées, je suis preneuse, quoi.
C'est ça le management, en fait. Enfin, le chef.
Ah oui,
mais
alors, excusez-moi, je suis désolée, moi, je suis dans un métier où non, c'est pas mon quotidien, quoi.
Je te dis pas que ça doit être ton quotidien, mais en fait, ça te montre aussi ce que c'est, en fait, de prendre des décisions. Enfin, les politiques, quand ils prennent des décisions, à part avoir des.
J'ai une question pour Antoine. Qu'est-ce qui se serait passé si tu lui avais mis, au moment où Natacha, tu voyais qu'elle commençait à hésiter, un problème, prendre une décision? Qu'est-ce qui se passait, quoi, tu vois?
Écran bleu,
tu vois,
non, je sais pas, hein, c'est autre chose.
Le jeu
mais je pense que dans ton cas, et pour Triptouskaï en particulier, c'est surtout ce côté sur le long terme, en fait. Il y a un moment donné, une posture de jeu asymétrique, tu peux saturer ou t'enlacer, ou tu peux être agacé par le côté que c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent, et avoir envie de... Mais pour un moment, faire une pause, changer de dynamique un petit peu, c'était peut-être. Oui, mais
Antoine,
je pense que c'est là ça qui a fait que dans ton cas, c'est aller jusqu'au stade où c'est devenu frustrant.
Alors, l'autre raison aussi pour laquelle ça posait problème, c'est qu'effectivement, nous n'étions absolument pas un bateau de la pensée où ça aurait pu être beaucoup plus horizontal comme management.
Ouais, mais tu t'es fait piéger par ton personnage, ça.
Voilà,
ton
personnage s'est décrit lui-même comme le bâtard, le dernier membre de la famille et tout. En fait, il était peut-être pas fait pour commander, tu vois, et justement, c'est ça sa thématique.
Ah, pourtant,
j'avais vu cet angle-là. Mais en fait, non, parce qu'en fait, il a été éduqué toute sa vie à non mais tu seras capitaine du bateau et il faut que tu gères et surtout tu vis dans un monde où il y a une hiérarchie naturelle, tu vois, enfin il y a un truc un peu ancré dans son personnage.
Moi il y a deux sujets, il y a le sujet entre l'écart entre le joueur, ce que peut le joueur et ce que peut son personnage.
Mais t'es en train de te plaindre de tous les choix que t'as fait de ton personnage, c'est fou quand même, hein. Tu crées une capitaine dans l'âme profonde et là après tu fais non mais j'aurais pas voulu être
mais
capitaine.
Moi ça me fait me demander en tant que membre du bateau, y avait effectivement des moments où c'était assez évident que c'était normal que ce soit pas toi qui a supporté tout le poids et que c'était pas facile, et à l'inverse il y avait effectivement des moments où tu te positionnais vraiment avec une forme d'autorité et donc c'était pas toujours facile. Enfin, je sais pas à quel moment il aurait fallu agir différemment.
T'es
tu vois, démon. Réagissais à ça aussi, je pense.
Quand il y allait, tu le jouais vraiment bien. Hein, c'était nickel. Hein, c'est pour ça. Hein.
Oui alors
ça, tu jouais
parce
trop
que,
bien.
Par ailleurs, certes, je ne fais pas de management au quotidien, mais je suis quand même un peu dans une posture d'autorité au quotidien. Par ailleurs, du fait d'être prof, quoi. Ouais. Mais non, et puis alors l'autre truc aussi, c'est je me plains beaucoup, je vous prie de m'excuser.
tu as mérité ce droit. Après 50 séances, tu as le droit de dire que c'était
mais
dur.
En fait, il y a un autre truc que je voulais souligner justement dans cette posture d'autorité auquel je voulais venir plus tard, mais en venant à ça maintenant. C'est aussi extrêmement valorisant par certains côtés.
Ah.
Déjà, quand les gens te vous voient et t'appellent capitaine, il y a un petit effet un peu.
Ah ça, je le savais quand même.
Voilà.
Parce que ça je le savais que t'es. Et du coup, les fois où des gens t'appelaient pas capitaine, genre tu me disais, attends, il m'a vous voyez là
ça,
ou pas
ton côté
non,
de droite.
Non. C'était un
c'est
élément vraiment.
Ma dérive de droite.
Les minerins, c'était un vrai élément de jeu pour dire, ok. Il m'a parlé comme ça, j'ai noté. Je sais, ami ennemi, respect ou pas, c'était aussi une façon de en peu de mots, raconter des choses.
Oui, c'était un peu notre équivalent pas chopable de ennemi ou ennemi, ennemi ou ennemi, ouais.
Ouais, ouais.
Non mais bon, donc il y a ça. Il y a aussi le fait, avec un grand pouvoir, un flic de grande responsabilité, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que du coup, quand tu prends des décisions qui ont eu des retombées positives, tout le monde se retourne vers toi en disant « Ah, bravo, bien joué, machin ». Ok. Donc ça, c'est le premier effet qui se coule. Vachement cool. Le deuxième, qui est beaucoup moins drôle, c'est... Donc, t'as l'effet grisant, machin, puis après, tu te poses un... Punaise, c'est extrêmement dangereux, en fait. C'est hyper dangereux de se sentir dans cette posture-là en se disant « Waouh, c'est trop bien, j'ai du pouvoir. »
Mais genre, c'est l'expérience du jeu, en fait. Enfin, tu sais, moi, j'ai l'impression que tu découvres le gameplay du jeu. Tu vois, c'est le fait que ça me fait.
Mais ouais,
j'ai refait 50 parties.
C'est clair.
Tu sais, il y a un truc, c'est genre, ouais, mais tout ça, c'est l'effet émergent
de jouer
un
capitaine. Toi.
En fait, pour moi, c'est aussi important que le système de dés que de dire il y a un capitaine dans le navire. Pour moi, ça a autant d'impact dans la dynamique de jeu et donc dans tous ces effets que tu cites. Et en fait, pour moi, tu vois, ça crée plein d'effets avec lesquels on peut être plus ou moins à l'aise. Et en fait, ça m'interroge, tu vois, je me dis, mais.
C'est drôle parce que moi, quand j'ai créé des persos pour Trip to Sky, j'ai vite compris qu'il allait avoir un capitaine. Et là, une des premières questions que je me posais, c'est est-ce que mon perso, je veux le placer ou non comme capitaine? Et tu te crées ton perso autour de ça. Toi, t'es en train de te plaindre d'avoir créé le perso parfait pour être capitaine. Enfin, c'est bizarre quand même. C'est quand même, c'est quand même vachement étrange.
Je sais pas quoi vous dire.
Pour Natacha, elle est entre Adrien et moi. Ce sont des nazis. En mode, mais si, l'autorité, c'est très bien, Natacha. De quoi tu te plains, voyons.
Je sais plus comment ça
oui,
s'est
alors,
passé.
Oui, alors, on pourra en reparler aussi du fait que j'ai joué une femme, que je suis une femme, enfin, tu vois, et que je viens de quand même dénoncer en tant que femme cisgenre, de dire, punaise, avoir du pouvoir, c'est vachement bien, mais c'est aussi très dangereux. Voilà, juste, je place ça là, et je vous laisse réfléchir à ça.
Pour cancel, Adrien, c'est terminé.
pour Trip to Sky, je sais plus comment ça s'est passé, parce que alors, ton scénar solo, où on a créé ton perso, c'était l'un des premiers. Je crois même que c'était le premier. Et du coup, comme tu savais qu'il fallait un capitaine à la table, je crois que tu l'as créé dans une posture de bon, si je peux ne pas être capitaine, ça m'arrange.
Oui, c'est
ça que tu m'avais dit. Mais en même temps, t'as vraiment mis beaucoup d'éléments en mode bon, je sais qu'il y a des chances qu'il n'y ait pas d'autres capitaines ailleurs, donc je laisse aussi la marge qu'il faut pour t'arranger, toi, MJ, pour que je sois si besoin. Il y a un côté où tu l'as fait aussi pour la table.
C'est un vrai sens du devoir, quoi. Ça.
Franchement,
c'est un vrai sens du devoir.
Ça. Et du sacrifice.
Mais justement, alors par rapport au gameplay, côté émergent, etc.
Oui, mais donc du coup, j'ai dans le personnage suivant que j'ai créé, dans les personnages suivants que j'ai fait exactement pas ça. Oui, j'ai fait tout le contraire.
T'as l'expérience pour savoir vraiment comment éviter les.
Oui,
les
c'est trucs. Ça. Non, mais, voilà.
mais justement, on en a parlé aussi dans le podcast sur Trip to Sky, c'est que ça a fait partie des raisons pour lesquelles ton capitaine était peut-être un peu différent du capitaine classique, cliché de Trip to Sky, dans une démarche où elle se posait vraiment des questions sur son autorité. Elle était. Pas que la joueuse, là tu dis que la joueuse se posait des questions, etc., mais le personnage aussi, et donc c'était très intéressant aussi la façon dont ça a contribué à l'arc du personnage, à ses évolutions.
La progression du personnage était super cool.
Et surtout, ça a permis à tes camarades qui étaient d'anciens pirates de se positionner par rapport à la marge de manœuvre, l'autorité, la rébellion, donc ça a été très 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 fertile sur plein de choses, d'où le fait que ça soit une problématique. Mais en fait.
Mais plutôt que jouer une seule campagne, vous auriez dû en jouer deux, parce que moi, dans toutes les campagnes que j'ai faites jouer, la problématique elle est toujours là. Enfin, j'ai eu des capitaines qui disaient non, mais. Je le suis en titre, mais en fait, c'est toi qui dirige parce que ça me fait chier. Sauf que tous les PNJ s'adressaient à lui. Et enfin, il y avait des gens qui jouaient avec l'ambiguïté de ça, des gens qui étaient en mode non, mais je suis capitaine contre mon gré parce que c'est ma punition ou je sais pas quoi. Enfin, ça a toujours été là, tu vois. Enfin, t'es pas une exception, Natacha, en fait. Ça fait partie du jeu.
Ah oui, bien sûr.
Mais alors, ça tombe bien parce qu'en fait, moi, je viens pas pour parler de mon personnage, je viens pour parler d'autorité, en fait. Donc, je viens pour justement qu'on essaye de trouver des trucs, des règles générales. Et on peut arrêter la parenthèse là sur mon personnage, si vous voulez.
Alors,
enfin,
moi
ça va très bien.
J'avais une remarque à faire là-dessus parce que justement, c'est dans le jeu de rôle, la particularité du jeu de rôle, c'est qu'on ne joue pas tout. Et donc, quand le capitaine donne un ordre,
Adrien.
En fait, c'est pas. Ben, ok, le capitaine a donné l'ordre. Genre fais ce truc, mais tu peux très bien dire mon perso le fait, voilà, c'est fait, et puis ensuite je fais l'action qui m'intéresse et je décris l'action qui m'intéresse, et en fait l'ordre ne peut être que esthétique. En fait, il n'y a pas de nécessité, en tout cas dans Trip to Sky et dans d'autres jeux où il y a des capitaines type Sense, type INSMV, enfin j'en sais rien, il y a plein de jeux où tu peux avoir des gens à responsabilité dont la responsabilité n'est que esthétique.
Est-ce que ça marche avec tous les joueurs? Enfin, c'est ça,
moyen d'accord, tu vois, parce que quand le capitaine te dit non, ne frappe pas ce PNJ, tu peux pas ne pas frapper le PNJ puis frapper le PNJ, ça, c'est pas possible.
En tout cas, c'était vraiment, en plus, c'était même pas, je t'ai verbalisé l'ordre, j'étais retenu le poignet. Quoi.
Oui, enfin,
t'as des classiques, c'est t'arrêtes de le taper, puis le soir, tu dis au MJ, bon bah le soir, on revient et on le tabasse dans sa cellule. Enfin, je veux dire.
Mais c'était un acte que t'avais fait en tant que capitaine seulement, ou aussi parce que, tu vois, c'était la façon de penser de ton personnage que t'aurais fait indépendamment de ta position d'autorité.
Natacha.
Non, c'était la façon de penser du personnage, ouais, effectivement.
Donc finalement, à dégager.
Et c'est très indissociable, en fait, en parlant de Simadi, c'est quand même compliqué, tu vois.
Oui, donc t'as vraiment joué un personnage qui avait à cœur ses valeurs aussi. Et donc c'est vrai que nous, on se positionnait face à ça aussi, avec un personnage qui avait ces valeurs-là, quoi.
J'aimerais revenir sur ce qu'a dit Valentin au début, sur l'aspect donc gadget de ce pouvoir, c'est-à-dire que t'as un petit joker en plus. Alors c'est pas gadget.
Pour moi justement, j'aimerais préciser, et aussi pour un peu extraire de la discussion ce qui s'est dit. À mon sens, c'est quelque chose moi, que je découvre quand même dans la discussion avec vos retours, c'est qu'en fait, dire dans un jeu, il y a une position d'autorité, ça change le jeu de ouf. Et les gens qui vont occuper cette posture d'autorité, ils vont avoir une expérience de jeu, il faut être OK avec ça. Ouais. C'est pas un truc à la légère, et du coup, attention au mot gadget pour moi. Il y a un côté, alors attention, c'est une feature, on peut l'activer, tu vois. Mais si on l'active dans le jeu, qu'on dit OK, il y a quelqu'un qui a l'autorité, OK, on fait un choix de design qui est très engagé en fait.
Ouais, quand alors, même. Par gadget, j'entends, c'est un type de pouvoir, tu vois, c'est un,
ouais, c'est ça,
c'est une mécanique auquel tu as accès qui pourrait être. En fait, là,
c'est pas esthétique.
Quand on évoquait le sujet du podcast, j'ai commencé à réfléchir un peu ça et qu'il y avait cet aspect de j'ai plus de pouvoir que les autres. La première pensée que j'ai eue, c'est jouer un mage à Donjons et Dragons versus jouer un guerrier à Donjons et Dragons dans les premières éditions. Où vraiment, t'en as un, ta liberté de gameplay, elle est réduite à qui c'est que j'attaque, et l'autre, c'est un panel de sorts infini. Et ouais. Clairement,
ouais, surtout que là, ça joue quand même sur la dynamique sociale. Donc c'est
non, mais bien sûr. Non, mais
profond, quoi.
Ouais, mais dans Donjons et Dragons, ça étant le centre, c'est le social, tu vois. Enfin, il n'y a pas de différence. Et du coup, effectivement, il y a un peu cet aspect-là de la dissymétrie. Et plus que la dissymétrie, parce que tu pourrais avoir des fonctions importantes différentes, mais chacun avec son importance, tu vois. Tu joues le flic, toi tu joues le juge, et toi tu joues le médecin. Bon bah, chacun a son domaine d'expertise.
Et d'autorité.
Et d'autorité, du coup, mais il y a symétrie. Et donc c'est vrai qu'il y a une question qui est, est-ce que le problème c'est l'autorité, ou est-ce que c'est le problème c'est l'asymétrie des pouvoirs quelque part ?
D'autorité militaire, en l'occurrence, moi je trouve que c'est ça le souci là. C'est de donner des ordres qui vont impliquer des actions et des comportements à un autre joueur. Alors que justement, le principe d'un joueur, c'est d'avoir l'agentivité sur les comportements et les actions de son personnage.
Tout à fait.
Bah, okay. D'autant plus, est-ce que l'enjeu ne serait pas que, en fait, dans toute situation en jeu de rôle, chaque PJ a potentiellement un impact qu'il ou elle peut avoir sur les autres PJ ? À tout moment, indépendamment des postures d'autorité, je peux décider que mon personnage met une droite à tel autre personnage, etc. Et il peut y avoir des actions qui ont des conséquences assez importantes. Par exemple, dans le cas de utiliser une compétence de mage à Donjons et Dragons sur un autre personnage, ça a des conséquences importantes. Et est-ce que là, l'enjeu autour de la figure d'autorité ne serait pas que on est dans le cas d'un personnage qui peut agir sur d'autres personnages de façon très importante ? Donc avec des conséquences qui sont démesurées par rapport à juste quelqu'un d'autre qui agirait, mais non mécanisées. C'est-à-dire, non seulement telle personne peut faire beaucoup souffrir ou mettre beaucoup en avant d'autres personnes sur lesquelles elle a une autorité, et en plus, le jeu ne dit pas comment ça marche. En gros, c'est motorisé par les dynamiques sociales par défaut, quoi. Telles qu'on les interprète, nous, joueurs et joueuses. Ce qui crée une zone grise.
C'est vachement fort ce que tu dis. Parce qu'en fait, le fait que ce soit pas mécanisé, ça fait que tu ne sais pas quel degré de liberté tu as en tant qu'autre, que non-capitaine. Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Tu as une sorte de non-dit absolu qui fait que ça peut être aussi bien rien comme je le décris, en mode « bon bah je fais ce que tu dis, puis je fais autre chose », et que l'acceptance de notre joueur, c'est « non, mais mec, la planche, quoi ».
Non, mais je suis d'accord avec. Alors, on retombe sur les
sanctions tout à l'heure dont je parlais.
Il y a quand même, je voudrais pas vous laisser dire n'importe quoi, dans Trip to Sky, il y a quand même un énorme garde-fou qui est la règle centrale mise en gras dans la base qui est même si vous devez faire en sorte que votre personnage soit supportable. Et donc, vous devez faire en sorte qu'il ne soit jamais finalement monstrueux, que n'importe.
Alors, ouais,
donc,
mais il y a une limite à ça. Hein.
Ah bah non.
Bah,
en tout cas, c'est un garde-fou contre le commandant impitoyable.
Alors, je ne parle pas de commandant impitoyable. Quand
tu
as deux positions morales
fondamentalement
différentes qui s'opposent, comment tu tranches ça, en fait ? Il y en a un qui est capitaine et pas l'autre, en fait. Il y a deux positions, genre, un prisonnier...
C'est dans le contrat social du jeu, les personnages ne doivent pas... Enfin, je sais pas comment tu le... Antoine maîtrise
mieux. Va au bout de ce que. Enfin, Adrien. C'est écrit, on a compris. Mais va au bout de ce que tu voulais dire, parce que je pense.
On a deux solutions. C'est soit on tue l'équipage en face, soit on les laisse partir, mais on sait qu'ils vont aller buter notre famille parce qu'ils ont des infos, je sais pas quoi. Enfin, les deux choix moraux sont affreux, et tu vas avoir un joueur qui défend chacune des deux positions, et c'est irréconciliable, en fait. Et tu joues pas des monstres, en fait. Hein, tu joues pas des personnages qui sont insupportables. Et pourtant, tu vas te retrouver dans une situation où le capitaine va devoir trancher.
Pour moi, tuer des gens, c'est insupportable. Point. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot.
Tu vois bien que leur point est démontré, au sens où, en fait, ouais, le point de Lucas, c'était justement de dire, mais en fait, le fait même que ce soit interprétatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiffres, et qu'il faut interpréter ta règle de la monstruosité aussi.
Ah, d'accord, ok.
Et que, en fait, même. Donc là, on est dans un enjeu.
Je pense que
justement, le point d'Adrien, c'est
nous, on a vraiment eu ça en partie, ouais, et c'était pas des comportements monstrueux, en fait.
Ok. Antoine.
Ce que j'allais dire avant, en fait, à partir du moment où c'est pas mécanisé, de fait, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, il ne reste que le contrat social, dans quelque sorte, avec qui est orienté par des règles comme celle que tu viens de dire, qui est un conseil au contrat social en quelque sorte, qui est un élément de contrat social.
J'ai pas le livre sous la main, mais donc, donne-le-moi, je vais te lire.
Il n'y a pas que ça. Mais de façon globale, en dehors de Trip to Sky, bah, c'est comme dans plein de jeux, quoi. S'il y a des conflits entre joueurs et qu'il n'y a pas d'éléments qui le règlent, bah, c'est du contrat social, et c'est gérer des choses. Mais ça, c'est comme d'habitude, quoi. Oui, c'est une situation de tension. Alors, de problématique, comme plein d'autres.
Non, mais la nuance ici, c'est que si t'en as un qui est le capitaine, il est censé trancher. Et fictionnellement, c'est pas juste une discussion entre
joueurs
qui va régler ça.
Le contrat social va quand même encadrer. Ok, là, il peut trancher. Mais par contre, derrière, l'autre peut en cachette aller faire autre chose, etc. Et est-ce que ça aussi c'est encore essentiel ou non? Ou est-ce que ça devient du PVP? Ouais. Donc en fait, quoi qu'il arrive, des choses peuvent émerger. Mais c'est difficile de donner quelque chose de générique parce que c'est le contrat social de chaque jeu et de chaque table là-dessus. Dans Trip to Sky en particulier, pour le côté juste que le jeu ne bug pas, il y a beaucoup d'autres choses au-delà de ça. Il y a tout un moment dans le système des exemples qui donnent des conseils pour décoincer ces situations. Il y a ce cas typique, un exemple qui est de type, quelqu'un veut capturer un prisonnier, l'autre veut le tuer, l'autre veut le libérer, je crois que c'est ça.
L'exemple
est dans la base. Il y a plein de propositions. Et c'est le MJ peut proposer de je ne sais plus quelle page c'est, mais de mémoire.
L'exemple d'Hector peut proposer de
encourager les joueurs à négocier jusqu'à ce qu'ils aient une solution. Je crois que le capitaine est mentionné comme un truc pour trancher, mais c'est pas le seul. Il y a d'autres exemples. Donc dans Trip to Sky, il y a des pistes proposées. Il y en a plusieurs, et donc le jour où ça se présente, tu peux te fier à ça. Et puis si les joueurs n'arrivent jamais à s'entendre, là c'est un problème de contrat social, tu vois, au-delà de ça. Donc ouais, c'est une problématique, comme dans tous les jeux à décision de groupe.
Oui,
et quelque part, en fait, le capitaine va apporter plus de solutions que de problèmes, en fait, à ça.
En fait,
parce que dans beaucoup, beaucoup de cas, ce qu'il va faire, c'est plutôt accélérer les prises de décision.
Oui, mais
et faire que la fiction avance.
Cristalliser des tensions, en fait.
Aussi, bien sûr. Mais quelque part, c'est moins flou que 4 personnes. C'est un des intérêts du capitaine en jeu.
Mais
pour l'efficacité de la table, c'est que ça avance. Quoi.
Mais on en revient sur le fait que le poids repose
sur
le capitaine.
Bien sûr.
Ah non. Et c'est... Non, là j'arrête tout. Stop, c'est pas vrai. Dans l'exemple, le troisième exemple d'Hector, quand on n'a pas réussi à trancher, le dernier exemple, c'est demander à la table ce qu'il serait le plus cool de faire. Et donc la décision, au final, est collective. Si le capitaine ne s'est pas passé, et il y a un autre truc aussi, c'est qui a mis le plus de points dans la résolution de l'action.
Oui,
il y a
ce que veut dire Céline, à mon avis, ouais. C'est quand dans le cas où c'est le capitaine la solution du capitaine est passée. Et là...
Ah,
du coup, la décision repose sur le poids des épaules du capitaine, quoi. Et les conséquences.
Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tacitement, les joueurs ont accepté que c'était cette solution-là qu'on embrassait. Tacitement. Si les joueurs sont vraiment pas d'accord, le système prévoit bien ces cas dessus. Encore une fois, c'est l'exemple d'Hector. Je m'en souviens très très bien de cet exemple. Et il y a un moment où, en gros, on décide collectivement qu'est-ce qui est le plus cool. Et donc on tranche le dilemme d'Adrien qui est les deux cas de figure machin. On dit bon, à votre avis, qu'est-ce qui serait le plus cool pour nos persos? Et là, c'est collectivement qu'on décide. Et là, du coup, c'est plus les personnages qui agissent, il n'y a plus ces postures d'autorité, ce truc comme ça. Ce sont les joueurs autour de la table, avec le MJ compris, qui le décident. Je sais pas, c'est très clair, quoi. Il y a pas de doute. Luca.
Ouais, mais je pense qu'en termes de dynamique sociale, il n'y a quand même pas le même poids entre proposer quelque chose et accepter une décision. Si on est dans le cas où il y a une situation problème, la table est un petit peu hésitante. Moi, en tant que joueur, j'aurais envie qu'il se passe A. Et le capitaine dit, on va faire B. Dans cette situation, c'est quand même beaucoup plus difficile pour moi, en tant que PJ, de dire, non, arrêtons, je voudrais A, etc. Pour plein de raisons qui sont liées à, bah, notamment, ce qu'on décrit dans la fiction, quoi, le capitaine a l'autorité et tout, que si, à un moment donné, avant même que le capitaine puisse, par exemple, trancher, on s'était dit, voilà, qu'est-ce que tout le monde en pense? Donc, en fait, l'existence de cette posture d'autorité fait que, oui, certes, il est toujours théoriquement possible de s'organiser collégialement, mais est-ce la manière par défaut dont on va fonctionner?
En fait, il faut distinguer les élèves. Tout le monde lève la main, là, ou c'est moi qui rêve? Non, ok. Ok, il faut... Donc,
non, mais alors, je voudrais répondre. C'est pas un jugement sur ton jeu. Hein.
Je sais bien, j'ai bien compris. Ouais. Mais c'est juste qu'il faut quand même distinguer le niveau fictionnel du niveau système. C'est ça que je voudrais qu'on essaie de distinguer.
Mais c'est pour ça qu'on dit bien. C'est... La posture de capitaine, elle fait surgir ce souci quand t'as ce niveau intermédiaire entre les joueurs ne sont pas d'accord et on en discute. Enfin, pardon, les personnages ne sont pas d'accord et les joueurs en discutent. Entre les deux, dans Trip to Sky, il y a un capitaine. Ou dans les jeux où il y a un capitaine, il y a un capitaine qui doit parler. C'est dans la, fictionnellement, ça intervient là.
Oui, je suis d'accord.
Le truc qui m'est venu à l'esprit, j'ai peut-être un peu déraillé le truc, mais je n'ai pas. J'essaie de réfléchir à des jeux tradis où il y a une posture d'autorité forte comme ça, et j'en trouve pas. Le premier truc qui m'est venu, celui-ci, mais oui, L5R, les juges d'Emeraude. Mais non, parce qu'en fait, toute la team joue le juge d'Emeraude en général. Enfin, il y a pas un juge et les trois états qui vont avec lui, quoi.
Parce que Valentin disait tout à l'heure, il y a cette tradition de, on a la même XP, on a les mêmes autorités, on a les mêmes machins, et il y a beaucoup, c'est ça qui vient. Donc il y a pas beaucoup d'exemples, ouais, je pense. Ce que je voulais dire par rapport à ce que Luca disait, c'est qu'en fait, ce que tu as re-amené sur les problématiques que ça pose, encore une fois, c'est aussi du gameplay et une feature, parce que c'est aussi hyper intéressant et hyper fertile qu'un personnage qui, il y a une situation, le capitaine décide, tu dis rien, le capitaine décide à nouveau le lendemain, tu dis rien, et un jour, le capitaine décide, et là, tu t'y opposes, c'est super signifiant pour l'histoire.
Point de rupture, ça fait monter l'attention.
Pourquoi tu t'opposes sur ce point-là et pas un autre, ça raconte aussi quelque chose sur ce qui se passe et tout, donc c'est des choses qui sont peut-être intéressantes à plein de points. Moi, j'ai l'impression que ce qui au final reste le plus comme un problème vraiment, c'est pas tellement l'impulsion initiale ou la décision, parce que le capitaine peut diluer sur le moment, dire je vous consulte ou toi qu'est-ce que tu ferais. Il y a des moments où le capitaine peut choisir de diluer ça. Un truc que le capitaine ne peut pas diluer, c'est ce centre de l'attention et ses regards. Cette espèce de moment, c'est une posture qui est très particulière. Moi, on est plein de fois en Trip to Sky, ce moment où je disais, là tu sens que l'équipage attend un discours. C'était littéralement ces scènes-là qui étaient le plus. C'est plus être porte-parole d'un centre décisionnaire, qu'il soit dirigé par toi ou non, qui était compliqué. Et un peu artificiel parfois, que l'autorité elle-même. C'est plus la conséquence secondaire qui était problématique. Et où là, tu peux pas la diluer, la nuancer.
Pour moi, le problème, c'est juste la confusion entre l'autorité narrative et l'autorité fictionnelle. Enfin, pour moi, c'est juste ça, c'est la confusion des deux. Mais si, bien sûr que si.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que l'autorité sur la narration. C'est intriqué pour toi.
C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure.
Pour moi, c'est un problème. Si pour vous, dans votre esprit, il y a une confusion entre l'autorité narrative, et c'est-à-dire l'autorité sur la narration,
En fait, c'est naïf de penser que ta parole, elle va pas avoir une action, tu vois, que les joueurs vont forcément agir en dehors de toute parole. À partir du moment où t'as eu une parole dans la fiction, même si on a établi que on est tous à égalité, machin, tout ça. Ça va forcément les influencer d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que si jamais ils se positionnent en réaction.
C'est comme si tu disais, le médecin de bord dit un truc, et en fait, ça n'a aucun sens, parce qu'en fait, on peut jouer comme s'il n'avait rien dit, tu vois. Quand le capitaine dit quelque chose,
Non, c'est pas ça. Le problème de Natacha, c'est quand son autorité dans la fiction de capitaine lui donne une autorité sur la narration. C'est-à-dire, lui donne une autorité qu'elle ne devrait pas avoir sur
la
narration.
C'est pas ça qu'elle dit.
Bah si.
Non. Ce qui la dérange, c'est le fait
là,
que...
Du coup, je ne comprends plus.
Mais non, ce qui la dérange, c'est l'acte social de ma posture de capitaine fait que ma parole vaut ordre et devrait être une parole performative. Devrait être. Ça l'est pas systématiquement, mais le fait qu'elle puisse l'être la dérange. Elle ne pirate pas la fiction. Hein. C'est le fait, l'interaction sociale autour de l'acte d'autorité.
D'accord, ok. Ah oui, donc c'est vraiment fiction-fiction, quoi.
Oui. Ah oui, on parle de fiction-fiction. C'est pour ça que je te dis bien, quand tu donnes l'exemple de on sort
mais comme
de la fiction.
Au départ, elle disait qu'elle privait d'agentivité d'autres joueurs, c'est pour ça que j'ai confondu avec ça. Ouais, ok.
Et oui. C'est le.
Ah, mais c'est flou. Ça, oui, d'accord, c'est pour ça que tu disais que c'était flou, toi.
Ça me fait penser à un bouquin de China Mieville.
C'est le fait que je trouve que c'est intriqué, parce que ça a quand même une cause à effet indirecte. Donc c'est pas complètement en vase clos sans communication, forcément.
Ah, j'avoue. J'ai pas tellement de.
Non, mais il n'y a pas de.
Il n'y a pas de solution.
Il n'y a pas de réponse.
Non, à part celle que disait Valentin tout à l'heure, c'est super intéressant et il faut le prendre en compte quand tu fais ton gameplay, quoi.
Ouais, et puis il y a des jeux à faire
autour. Donc il n'y a pas de règles.
En fait, je me suis rendu compte que j'ai une idée de jeu que je travaille depuis des années qui à ce moment-là est plutôt à l'état mort. C'est ça. Enfin, on parle que de ça, quoi. Que d'autorité et de qui joue l'autorité et quelle autorité. Fictionnelle.
Il n'y a pas à régler ça avec des règles.
Pas forcément, non.
Bah, en fait, c'est, pour moi, c'est une. C'est, enfin, c'est,
on peut en faire une mécanique
le
de gameplay.
Le truc,
design
c'est que. Donc, moi,
histoires.
Déjà, j'aime pas trop la différence mécanique-fiction quand, okay, on, ouais, quand on parle de gameplay, tu vois. Oui, en fait, pour moi, c'est très important en termes de gameplay. Autant, comme je disais tout à l'heure, que un système, par exemple, qui donne 45 points de création à un personnage et 10 à l'autre, ça a énormément d'influence en termes d'agentivité. On n'est toujours pas passé au niveau narratif. On est là au niveau mécanique. Mais il y a une énorme différence et moi parce que j'ai énormément de pouvoir, ça va, et toi t'es mon larbin pour des raisons d'XP et ça va changer la dynamique de jeu et l'agentivité et plein de choses dans la dynamique sociale et ça serait un équivalent de ce truc fictionnel mais qui pour moi est un élément de règle de fiction on pourrait dire, super important. D'autant plus qu'on est assis autour d'une table à passer notre temps à prendre des décisions. Enfin, c'est ça aussi qu'il faut dire, quoi. C'est qu'on passe notre temps à prendre des décisions. Il se trouve que quelqu'un a l'autorité finale dans la fiction sur les décisions prises par ses personnages. Bah, putain, c'est une feature qui change tout, quoi.
Oui, bien sûr. Luca ?
D'ailleurs, il y a des jeux dans lesquels ça existe au sein des règles. On parlait tout à l'heure, à la faveur de votre retour sur De Billets d'Acier, des jeux de Vivi Féasson. Et dans Explorateur de Bruine, qui est le dernier que j'ai lu en date, donc je l'ai un peu frais dans la tête, il y a l'archétype du chef, je crois, dont les compétences, au sens écrites dans le livret, sont celles de type, bah voilà, pouvoir donner des ordres. Il y a toute une mécanique de, un peu comme choisir ses sorts à D&D à l'ancienne, tu choisis ton histoire que tu vas raconter aux gamins de ton groupe le soir, ce qui va te donner la possibilité de leur transmettre certains ordres ou pas pendant la journée d'après, etc. Et physiquement, ça prend de la place sur sa feuille de personnage, place qui est prise par d'autres compétences sur d'autres livrets. Et donc, ce design-là reconnaît, à minima, le fait que d'instancier dans le groupe, il y a un chef, ça va lui donner un certain type de pouvoir, donc ça va lui permettre de, par exemple, cadrer un certain type de scène, faire un certain type d'action, influencer la fiction dans une certaine direction, et donc ça prend de la place sur ce qu'on lui offre dans le jeu, et pour compenser ça, eh ben, il faut que la même place, la même agentivité soit prise d'une autre manière.
On rééquilibre l'autorité qu'on donne dans la fiction par d'autres types d'autorité à d'autres joueurs.
J'ai l'impression que le message clé, c'est dire une position d'autorité dans la fiction, ça doit être manipulé avec des pincettes, dans le sens, ça doit pas être juste dit comme ça, voilà, et puis les joueurs se démerderont, quoi. Enfin, ça a des implications fortes dans la dynamique de jeu que ça va créer.
Alors que moi, tu vois, dans mon game design... Alors, il y a une fois dans ce sens, je crois, où j'avais précisé que le buck qui était capitaine pouvait servir au meneur de jeu de relais sur certaines règles ou certains points d'immersion, je sais plus quoi. Je sais que j'ai un de mes jeux...
Ça me dit rien, ça.
Je sais que j'ai... Alors, je sais
non, mais
que j'ai un de mes jeux...
C'est possible, hein, mais chaque pavé de sens fait 300 pages,
c'est
donc...
Peut-être, c'est peut-être pas dans ce sens, hein, je sais plus, mais je sais peut-être. Que dans un de mes jeux, le rôle du capitaine... Un des rôles du capitaine, c'est d'être un petit MJ, en gros. Ouais.
C'est pas dans Loli Rock.
Peut-être. Non, mais je me souviens qu'il y a un moment donné où je crois que c'est dans ce sens, hein, où je dis voilà, le capitaine peut aussi. Il me semble qu'il y a un truc comme ça dans ce sens, mais je sais plus. Bref, 3-16 Carnage dans les étoiles. C'est à ça que je pense, moi, parce que ça, c'est vraiment le jeu dans lequel le rôle de l'autorité est vraiment un gameplay central du jeu, quoi.
J'en sais rien parce que j'ai pas joué, mais est-ce que c'est pas le cas dans Dog Eat Dog aussi?
Alors, Dog Eat Dog, c'est différent parce
Dog
que...
Dog Eat Dog, c'est le MJ qui a cette posture-là.
Ah oui, d'accord. Okay.
Oui, mais alors, Dog Eat Dog est un jeu dont le...
Oui,
le,
mais
le,
en fait, dans
le
les jeux...
Le propos,
ouais, mais dans les jeux où c'est le MJ qui a cette posture-là, c'est...
Oui, c'est...
Enfin, c'est
d'ailleurs,
habituel,
quoi. Liam dit lui-même qu'il a créé ce jeu juste en s'inspirant de certaines parties dysfonctionnelles de Donjons et Dragons auxquelles il avait joué. C'est-à-dire que l'idée qu'en fait le MJ dans Donjons et Dragons est dans une position de colonisateur vis-à-vis des joueurs qui cherchent à s'assimiler à ses idées nauséabondes ou dégueulasses, ouais. Il l'a eu concrètement en faisant du jeu de rôle classique à des tables aux États-Unis de Donjons et Dragons. Donc ça veut dire que voilà, c'est l'autorité du MJ ici qui sert de synesthésie, de convergence, de parallèle avec l'autorité des colonisateurs.
Alors si on en vient à l'autorité jouée par le MJ, moi j'avais un autre truc et ça rejoint les questions de y penser par rapport au game design. Moi systématiquement maintenant quand je travaille sur des jeux ou des one shots de parties ou des choses comme ça. Et que j'ai des PJ qui doivent prendre des décisions, notamment dans un jeu d'enquête ou d'action, de mission, de choses comme ça. Et qu'il y a des PNJ qui sont en posture au-dessus des PJ. en notre posture d'autorité ou de d'autorité au sens intellectuel du terme. Ils savent des choses que les PNJ ne savent pas, des choses comme ça. Que les PJ ne savent pas, je vais y arriver, excusez-moi.
On comprend.
En fait, il faut que je trouve une règle qui soit cohérente du point de vue métaphysique, oui. Fictionnel et dans
mais
la.
Tu l'as
voilà.
fait dans Le Rosaire Écarlate.
Exactement, c'est à ça que je pensais notamment, qui explique que non, ces PNJ qui sont au-dessus des PJ ne sont pas des jokers et qu'on va pas pouvoir aller les voir pour qu'ils prennent des décisions et qu'ils fassent des choses à notre place.
Ouais.
Et ça, c'est donc ça, c'est et c'est souvent le cas, notamment quand dans des jeux où on joue des enfants ou des ados et il y a des adultes. Aussi dans les PNJ.
Tu les fais disparaître des adultes dans ces cas-là ?
Ben oui, sauf que non, quand tu joues à Bienvenue à Poudlard de Fred Saintès, faire disparaître les adultes, c'est un peu compliqué quoi.
En fait, tu le fais toujours un peu indirectement. Par exemple, dans. Je sais plus dans quel jeu, peut-être c'est dans justement Bienvenue à Poudlard, les adultes te croient jamais. Ou je sais plus
dans non,
quel
ça
jeu.
C'est dans Tales from the Loop.
Oh, Tales from the Loop. Donc tu les fais disparaître comme ça. Dans Deux Bits d'Acier, ils sont jamais sympas.
Bah, ils font partie de l'adversité en
voilà,
fait. Et clairement, donc, en fait, et tout ce qu'ils vont faire, ça va être juste pour générer de la bile noire chez les
quelque
ados.
Quelque part, tu les fais disparaître. Ouais. En tout cas, tu anesthésies leur pouvoir
oui,
de,
ça.
Justement.
Ouais, c'est exactement ça. Voilà.
De Deus Ex Machina, après ce qu'on a envie de dire quoi. Ok. Alors,
mais je vais faire la contradiction. Est-ce que, pour revenir justement à ce débat bug oui. versus feature, est-ce que ce serait pas intéressant de ne pas faire disparaître cette posture d'autorité d'un PNJ en fait qui donne des ordres au PJ et que ce soit un enjeu. Et je pense que vous avez peut-être des cas.
Blistage.
Blistage, exact, tout à fait, Blistage.
Qui d'ailleurs, il y a le rôle s'appelle l'autorité.
Ouais, oui, complètement l'autorité.
Ouais, c'est ça, et qu'en fait, le fait que cette personne justement commence à déconner, en fait, c'est quand même quelqu'un qui va te donner des ordres. Tu vas devoir faire ce que cette personne dit. À un moment donné, peut-être que t'es pas d'accord. Il va falloir se positionner vis-à-vis de ça. Et je trouve ça. Alors, c'est un. Encore une fois, c'est une option de gameplay qui est très orientée, quoi. Mais qui est super intéressante. Enfin, moi, je trouve de jouer ça, quoi.
Ouais, bien sûr.
Est-ce que ça ressemble pas un peu à ce qui se passe dans une partie archétypale de Shadowrun ? Où à la fin, tu dois finir par te retourner contre le commanditaire parce que c'était lui le méchant.
C'est bien.
Et alors, pour okay. abonder dans le panel des cas possibles de comment est-ce que l'autorité peut se manifester et un peu les cas limites, j'ai un exemple qui me vient de GN, mais qui peut en fait se retrouver en jeu de rôle. L'exemple en détail n'est pas forcément si important, mais la situation que je décris peut-être que si. Dans un jeu qui s'appelle Le Banquet de Monsieur N, écrit par Diane Desposito et Jérôme Pain, que j'ai fait il y a quelques années, je suis casté sur le rôle de Monsieur N, qui est l'hôte d'une soirée à laquelle participent plein de gens, et il y a un GN format murder, quoi. Et donc, bah voilà, j'ai ma fiche, je suis un PJ, quoi, en fait, avec tout un tas de. Pardon, avec tout un tas d'objectifs, etc. Et en fait, ma position d'hôte de la soirée, et en plus le rôle particulier qu'a ce personnage dans le scénario, font que très rapidement, au bout de quelques minutes de jeu, un orga vient me voir et me dit: ah, là, il y a machin et tout qui est en train de faire ça. Et c'était à la fois cohérent narrativement, sans forcément trop spoiler, parce que ce personnage est au courant de beaucoup de choses, et donc le fait que les orgas viennent me voir et me donnent des indications était cohérent, genre oui, je sais, je suis un personnage qui sait beaucoup de choses, et en même temps, c'était des panneaux indicateurs. C'est-à-dire que j'ai jamais fait un GN où, à part celui-là, où un orga vient me taper sur l'épaule et me dit: regarde, machin fait ça et tout, tu pourrais aller lui parler. Genre, c'est quand même très. Et pourtant, pour les autres PJ, j'étais la posture d'autorité. L'hôte de la soirée, quelqu'un qui par ailleurs est très au centre de la dynamique sociale, etc. Mais moi, joueur, j'ai pas joué l'autorité. J'étais un relais, ouais, en fait, des orgas.
T'étais téléguidé par le scénar des orgas, quoi.
J'étais un PMJ, presque. Enfin, voilà. C'était pas une mauvaise expérience par ailleurs, j'ai passé un GN très, très drôle et tout, mais le cas inverse aussi peut se trouver, quoi, de cette figure d'autorité qui, du fait de son agentivité sur les autres joueurs et de son pouvoir sur la fiction, etc., se retrouve en fait être un vecteur de la vraie autorité dans tout ça, qui est, dans le cas où il y a un MJ, des orgas, un scénario, hein, et donc ne n'être que en fait le passage de ces grandes directions, quoi, et être un peu désinvesti de sa propre sa propre capacité à décider, voilà. Donc c'est un cas limite qui est complètement dans l'opposé de du capitaine de Trip to Sky dont on parlait au début, qui se retrouve seul sur son bateau et qui doit trancher. mais ça reste quelqu'un qui est qui exerce l'autorité, puisque de fait il est la figure que tout le monde regarde, il décide, les autres font, enfin voilà.
C'est intéressant. Est-ce qu'il n'existe pas il y a plein de choses qui me viennent, mais est-ce qu'il n'existe pas justement des limites à ce personnage incarnant l'autorité qui sont liées au dispositif même du jeu de rôle? C'est-à-dire qu'effectivement, on passe notre temps à se mettre d'accord sur des trucs et etc. Est-ce qu'il y a, parce que dans d'autres médias comme la littérature ou quoi, on se pose les personnages d'autorité n'ont pas autant. Tu vois, il y a un truc propre au jeu de rôle là. Un truc spécifique au jeu de rôle, non ?
Je sais pas. Moi, la pensée qui me vient, c'est que à l'échelle de la table, quand on pose un personnage d'autorité, en fait, dans la vraie vie, il y a personne qui est en autorité. C'est-à-dire que tout le monde est en autorité sur des gens, mais a d'autres gens au-dessus qui sont en autorité sur lui. Enfin, tu veux prendre le monde de l'entreprise, tu veux prendre le monde de quoi, enfin quoi que ce soit en fait. T'as toujours des gens au-dessus de toi, des gens en dessous de toi, enfin d'une façon ou d'une autre. Et quelque part dans le jeu de rôle, la particularité, c'est que tu ne joues qu'une échelle. Et donc quand t'as quelqu'un d'autorité, on a l'impression qu'il est le haut de l'échelle en fait, qu'il est le, ça peut donner cette impression-là. Et c'est ça qui peut être problématique. Enfin, j'ai l'impression que c'est
rigolo. Est-ce que le jeu de rôle, c'est pas le média? Alors, je rebondis sur ce que t'es en train de dire. Est-ce que c'est pas le jeu de rôle, le média par excellence, dans lequel le préjugé, le présupposé, c'est que tout le monde arrive autour de la table avec le même niveau d'autorité? Et c'est justement ça qui fait que ça dysfonctionne quand il y a un personnage d'autorité. Tu vois ce que je veux dire?
Il y a peut-être un peu de ça. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je réfléchissais aux jeux de rôle tradis qui ont quelque part cette volonté de garantir l'expérience de jeu la plus égalitaire, tu vois, entre tout le monde, parce que c'est peut-être les trucs qui leur ont été reprochés. Il y a peut-être ce trauma du mage de Donjons et Dragons dont je parlais.
Et pourtant, il y a un MJ, tu vois, dans la forme classique.
Oui, alors en fait, la posture d'égalité, elle est quand même discutable en fait sur le JDR tradi.
Est-ce que c'est pas notre vision du jeu?
Le JDR tradi vient beaucoup d'un monde de compétition à la base. Enfin.
En fait, le MJ, c'est cette espèce d'exception acceptée parce qu'il est censé être impartial. Il y a vachement cette idée dans le rôle de l'arbitre. L'arbitre, par définition, c'est le rôle de l'autorité absolue, mais qui n'est pas dans cette partialité. Il est censé avoir ce recul sur les choses, ce qui est discutable dans le jeu de rôle.
Surtout dans une certaine pratique du jeu de rôle
habituel,
le MJ idéal serait une IA en fait.
Ça revient à cette vision-là, si très simulatrice des choses. Simulationniste au sens du terme.
Moi je suis pas si sûr que ça, cette histoire de MJ comme impartial et tout. Il y a quand même un truc qu'on a, donc le versant de l'autorité, c'est aussi la soumission, je pense, et alors c'est à discuter, donc déjà dans le cas du MJ et après dans le cas de l'autorité incarnée par un PJ, dans le cas du MJ je pense qu'on se soumet à l'autorité du MJ parce qu'on trouve des bénéfices en fait, c'est à dire que en fait le MJ il a quand même de la responsabilité, il bosse, il prend en charge plein de choses, et si la partie se passe mal dans le dispositif tradi, c'est de sa faute. Parce que c'est lui qui a l'autorité, et en fait, la soumission, on tire des bénéfices à cette soumission. Et ça, c'est un peu le gameplay miroir de l'autorité, et qui pourrait un peu patcher ce problème de à quel point est-ce que l'autorité elle a un peu trop de charge en termes d'agentivité, mais qu'est-ce qu'on gagne à se soumettre quand on incarne un PJ, quoi.
En fait, tu dis exactement ce que j'essayais d'amener tout à l'heure, quand je disais qu'en fait, des fois, juste dire « je fais ce que dit l'autorité », c'est facile en fait. Parce que c'est une manière… Souvent, c'est évoqué dans les parties de Trip to Sky. Je prends à nouveau ça comme exemple, mais on ne sait pas trop quoi dire. Et en fait, quand le capitaine te donne un ordre, c'est facile. Tu vas faire ce que te dit de faire le capitaine. Alors, tu le décris comme tu veux, tu le fais de la façon que tu veux. Mais au moins, on t'a déchargé d'une charge mentale qui était… qu'est-ce que je fais dans cette situation où
et
je pourrais faire n'importe quoi.
Du coup, tu peux décrire des trucs cool sur la façon dont tu
exactement,
le fais, par
exactement.
Exemple.
Et souvent, l'enjeu, c'est pas tant qu'est-ce que tu dois faire, parce qu'en vrai, dans Trip to Sky, t'as pas de compétences mécaniques, je sais pas quoi, machin, on s'en fout. Tu vas prendre un dé, tu vas le jeter et il faut faire plus. Voilà, bon, bah. Mais quoi que tu fasses, en fait. Donc, l'important, c'est que tu dises un truc. Et le plus vite tu le dis, le plus la partie est fluide, en fait.
Un truc cool.
Bah, cool, oui et non. Un truc. Oui. Il sera cool parce que des fois, ça sera cool. Des fois, c'est venu, voilà. Et puis, c'est pas grave, on s'arrête pas là-dessus. Ouais. Il vaut mieux dire que poireauter pendant trois plombes. Quoi. Et donc, quelque part, donner des ordres, c'est un moyen d'accélérer tout ça, quoi. Je suis content que tu arrives à le formuler aussi clairement, parce que j'essayais d'arriver à cette idée-là sans savoir comment le formaliser.
Parfois, se soumettre à l'autorité présente certains avantages en termes de gameplay par la suite.
Les gens adorent se soumettre à l'autorité.
Et il y a aussi ce truc en miroir, du coup, être autorité, mais ça, je pense qu'en tant que meneur, on le sent. quand on joue dans un jeu de dispositif classique, bah c'est beaucoup de responsabilités, de stress, et peut-être que c'est un peu le miroir de ce que tu ressens, Natacha.
Oui, c'est possible.
Exemple,
ouais.
Hein.
Alors, il faut savoir que moi, ça, c'est quelque chose dont j'ai conscience depuis très très longtemps dans mes jeux, parce que mon premier jeu de rôle, ça a été Saint Seiya, et dans les Chevaliers Zodiac, la posture de soumission à l'autorité est là, je pense, le paroxysme de la classe. C'est-à-dire que le chevalier d'or qui s'incline devant sa princesse, le casque sous le bras, qui l'écoute jouant de la lyre, ou je ne sais, c'est le paradigme même de la classe. C'est-à-dire le mec soumis à sa déesse, etc., c'est la classe pour le chevalier.
Je comprends plus de choses sur ta relation.
Et oui,
sur toutes
mes relations.
Hein.
Et en fait, si vous réfléchissez bien, dans tous mes jeux, on est vraiment soumis à une espèce de divinité comme ça, etc. L'archétype de ça, c'est Sens Néant, dans lequel on joue quand même les serviteurs d'Azilis, etc. Et donc, cette posture d'autorité, là, grâce
est-ce
à...
Est-ce que c'est pour ça que t'as aimé Hurlement ?
Eh bien, c'est possible. C'est possible parce que j'aime beaucoup... En fait, j'aime bien... Moi, à titre personnel, c'est vrai que j'aime bien être soumis. Et donc je comprends d'autant plus. Non mais dans les parties de jeux de rôle.
Wink. On a vu les cravaches,
ça
la taille
suffit.
Des cravaches, le type de poignée, c'est plutôt
ça
pour une
suffit.
Main.
Ça suffit.
Et donc pour revenir à ton deuxième point qui porte sur l'autorité incarnée par le meneur par le biais d'un PNJ. En fait, il y a quand même beaucoup de jeux où on te donne des ordres. Et que tu joues une équipe du coup de PJ, mais qui sont téléguidés par...
Les jeux à mission.
Voilà,
oui,
exactement.
C'est ça, j'en parlais tout à l'heure.
Et quelque part, ils sont assez fonctionnels pour cette raison. Ils ont vraiment cette puissance de... Bah, on n'a pas...
Bah, déjà, les enjeux
décisions.
Sont donnés, quoi.
Voilà,
c'est fait.
Non, puis à l'époque,
le groupe de PJ, il est fondé facilement. Enfin, il y a plein de choses qui sont super
simplifiées. Puis à l'époque du jeu de rôle classique, le MJ devait préparer un scénario. Si tu laisses la gentilité aux joueurs de choisir ce qu'ils font ce soir... Ben, tu peux pas préparer de scénario en réalité. Donc le fait que tu aies un commanditaire qui dise vous allez là, etc., c'est ce qui te permet de préparer tes décors, tes personnages non-joueurs et compagnie. Donc je comprends cette logique-là. Et est-ce que justement les postures d'autorité qu'on trouve aujourd'hui dans les jeux de rôle non traditionnels, où il y a beaucoup plus d'égalitarisme finalement, ben, ce ne sont pas des artefacts de cet ancien temps-là, où il y avait des commanditaires, des commandants, des machins? Et que en fait, là, il commence à poser problème parce qu'on a quelque part, enfin, poser problème, ou en tout cas, il crée quelque chose d'inattendu où il peut faire dysfonctionner des instants parce qu'ils n'ont rien à foutre là, en fait, théoriquement. Peut-être qu'il fallait. Mais alors oui, juste un point. Je voulais vous dire ça. J'ai noté puis j'ai complètement zappé de reprendre là-dessus. Donc j'avais fait des playtests où les gens étaient soumis à un commandant de Trip to Sky. Ça fonctionnait pas du tout. J'ai fait des playtests aussi avec des bateaux panséens. Ça ne marchait pas du tout. Et donc j'ai réintroduit le commandant au fil des. Mais j'avais conscience.
Le capitaine ou l'armateur ?
Le capitaine. Hein.
D'accord.
Sans capitaine, ça fonctionnait pas. Parce que du coup, les PJ se retrouvaient à ne pas avoir d'agentivité sur l'endroit où allait le bateau, tout
ouais,
simplement.
Carrément, ouais.
C'était pas cohérent en fait. Et c'est pour ça que j'ai réintroduit le. Pas par là.
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'autorité d'un PJ sur un PJ, mais l'autorité d'un PJ sur les PNJ, c'est ça qui peut amener beaucoup d'agentivité, etc., et qui est moins problématique en contrat social. Alors, elle peut être problématique en responsabilité, etc., mais pas en contrat social. Donc, ça a quand même un gros avantage.
Moi, ça m'a vraiment posé problème en termes de relation à la table et pas en termes de relation. Enfin,
c'est ça, oui. Oui, avec
c'est discutable, mais.
Natacha, dans tous les,
PJ,
dans tous les jours,
PNJ.
Elle a beaucoup plus de facilité à donner des ordres à des PNJ qu'à des PJ, quoi.
C'est vrai. Ceci est vrai.
J'ajoute un dernier élément, c'est que le retour du capitaine dans les playtests qu'on avait fait était cohérent aussi parce que le jeu parlait de la prise de parole et de la mise en lumière. Donc bon, le capitaine quelque part était celui qui l'incarnait le plus, mais voilà. Mais encore une fois, on parle pas de Trip to Sky, hein, mais vraiment de la position d'autorité dans la fiction, et je comprends vraiment votre sujet. Luca, tu voulais ajouter ?
Eh ben, à nouveau, pour se rééloigner un peu de Trip to Sky. J'essaie encore de me poser la question des cas limites un peu inversés, quoi. Et donc là, on a beaucoup réfléchi au fait que la posture d'un PJ en autorité par rapport aux autres est un peu un miroir ou une extension de la posture du MJ face à la table qui prend un certain nombre de décisions pour orienter la fiction. Ça peut aller jusqu'à préparer complètement la fiction. Et du coup, à l'opposé du spectre, il existe les jeux sans MJ. Et donc, j'ai déjà vécu. Alors que par ailleurs politiquement c'est une forme de jeu qui m'intéresse. Ok, super projet, très intéressant, on peut réussir à créer de la fiction sans avoir recours à cette posture d'autorité que par ailleurs Politiquement, ça m'interroge et donc j'aimerais bien voir, voilà, est-ce qu'il existe des alternatives, comment ça fonctionne et tout. Et pourtant, j'ai déjà eu des parties très dysfonctionnelles de jeux sans posture d'autorité, précisément parce que la prise de décision, lorsqu'elle n'était pas réfléchie ou lorsqu'elle n'était pas lancée, voilà. Avait du mal à fonctionner, avait du mal à se lancer. Et
où il
donc,
y avait une prime à la grande gueule, moi c'est
possible. Soit, voilà, c'est ça, écueil numéro 1, il peut y avoir une prime à la grande gueule, pardon. Écueil numéro 2, quand tout le monde est trop gentil, la prise de décision n'avance pas. Et donc, soit il y a un calage méta qui implique de complètement sortir du jeu, enfin voilà.
Mais en philopolitique, mais même en géopolitique et compagnie, on observe ça. Tu vois, les démocraties ont beaucoup plus de mal à prendre des décisions parce que justement, il y a une horizontalité des pouvoirs. Là où, par exemple, des autocraties vont prendre des décisions très rapidement. Mais chaque système a ses avantages et ses défauts. Et donc, ça, dans le jeu de rôle, on les retrouve quasiment. Hein, c'est quasiment les mêmes problèmes. Donc, je plus soit ton expérience, Lucas.
Et donc, toujours en essayant de distinguer un peu voilà, quelle autorité intervient à quel moment et tout, je me demande. Enfin. C'est intéressant d'avoir une autorité de l'auteur. Ouais, ça fait un peu un trope étymologique, quoi, auctoritas, machin. Mais par exemple, si on prend Fiasco, jeu sans MJ, il y a quand même une autorité de l'auteur, dans la mesure où le jeu fonctionne par scène. À chaque fois, il faut caler une scène. Et il y a un moment qui est assez explicite où on peut discuter de ce qu'on va jouer. Et donc, il y a un moment où, pause dans la fiction, nous sommes tous l'auteur. Ah, vas-y, oh, ça va être une scène où on va voir Johnny. Ah ouais, Johnny va retourner à sa planque de flingue. Ok, c'est super, j'ai une idée, je sais qu'il va arriver. On lance la scène. Il y a eu un petit moment où l'autorité, l'auteur s'est réuni et donc a pris une décision, on a arrêté la fiction, on est reparti. Par contre, les jeux dans lesquels moi j'ai eu des expériences où ça dysfonctionnait un peu, c'est des trucs du genre plus belonging, outside belonging. Donc, il n'y a pas de pause. On enchaîne les scènes, chacun à tout moment peut juste cadrer sa scène, mais sans faire de proposition qui soit autre que genre décrire ce qui se passe. Et donc, on ne sait pas vraiment où ça va, et donc on est juste obligé de suivre un petit peu le flow. Et donc, il n'y a pas l'auteur qui, à un moment donné, met en pause, se réunit et exprime cette posture-là. Et en fait, dans les deux cas, les joueurs sont à égalité. C'est là où je veux en venir. Ouais. Par contre, dans un cas, il y a une instance qui est quand même autoritaire, composé de tous les joueurs, et une instance qui lui est soumise, composée de tous les joueurs aussi. Et dans l'autre cas, il n'y a qu'une seule instance un peu plus molle, et qui donc n'a qu'elle-même pour se reposer, et ne peut pas voilà, s'auto-soumettre, et donc ne se dynamise pas. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu flou, mais...
La liberté, c'est le respect de la loi qu'on s'est prescrite, mais si personne ne nous prescrit rien, si on se prescrit rien...
Nous-mêmes, voilà, ouais.
Est-ce que ça ressemble pas à la thématique du rythme que quelqu'un voulait évoquer?
Bon, je ne sais pas.
Il y a juste deux niveaux à bien distinguer dans la conversation. Là, tu parles du niveau, on va dire, de l'organisation de la méta, en fait, plutôt. Genre, qui a le droit de, par exemple, le découpage en scène, ce genre de choses. Mais je trouve que le flash que je viens d'avoir avec tout ce que tu nous dis, c'est que finalement, là, une possibilité pour organiser l'autorité au niveau de la fiction, par exemple, une figure d'autorité, capitaine et compagnie, c'est non pas seulement de dire t'as l'autorité, mais en fait de faire une liste de règles. Comme les règles sont évoquées dans le découpage en scène, avec qui prend la parole, qui a le droit de parler en premier, etc. Tu peux dire, ok, en fait, on va jouer à un jeu dans lequel tu es capitaine, mais en fait, et là, on prescrit tout un ensemble de règles de manière à ce qu'en fait, il y ait moins de marge interprétative, ouais. Et donc moins potentiellement de tension qui est posée sur l'autorité où il y a un protocole de prise de décision, il y a un second qui peut trancher dans le cas de...
Miles Christie, ouais, les tabous, ouais. Les tabous de Simon et Colin, je ne sais plus comment s'appelait le jeu. Ultra Confin, il y avait ça aussi.
Ouais.
Donc c'était, mais ça, ouais. Tu l'as pas sorti. On a fait.
Non, il est jamais sorti.
Après, ouais, ça fait que faire attention parce que ça fait que repousser le problème d'un cran. Enfin, ça aide beaucoup à la structuration et ça peut fluidifier. Mais en fait, on peut exploiter des systèmes de règles quand ils sont structurés aussi et ça peut produire des effets
je
un peu
d'ultra confin.
Ouais, c'est ça, un peu pervers ou en tout cas.
Et après, tu rentres dans l'interprétation des règles. Alors dans voilà, tous ces jeux-là, que ce soit les tabous dans... C'est bien pas Apocalyptica, mais c'est comment il s'appelle le jeu de Simon et Colin Pigna où tu joues dans les Mayas, il y a des tabous. Non,
oui, je vois.
C'était
oui,
leur premier jeu et sorti chez Footbridge Edition.
Ça commence par un A, non, il n'y a pas un truc comme ça.
Ah ouais, je sais plus. Mais c'est un jeu, voilà. Ah, mais ça me fait chier de
oui, non, mais je vois exactement duquel tu parles.
Voilà, et bah, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces jeux-là? C'est que le jeu va tourner autour de l'interprétation des règles, justement.
Oui, mais du coup, ça déplace un peu la pression, tu vois, qui est portée sur l'individu et sa décision. Parce qu'il y avait aussi ce problème de l'autorité, tu dois tout assumer, tu dois tout porter.
Oui, je suis d'accord.
Et là, en fait, on va pas questionner vraiment de la pure décision, ouais. On va dire, attends, mais là, la règle,
mais
c'est ça.
Mais du coup, c'est ce que je te dis, c'est que cet item-là... Ouais. Refait dévier, voilà, le
c'est
jeu.
C'est pour ça que ça ne fait que repousser.
Ouais. C'est trop drôle parce que ça déplace, évoque quoi. D'une deuxième façon ce que je voulais aborder parce que tu l'avais évoqué tout à l'heure. Enfin, ça m'avait fait penser tout à l'heure.
Oui.
C'est Dogs in the Vineyard. Donc Dogs in
Vineyard. Ah bah oui. Voilà. Très bon exemple.
Il y a donc deux éléments de la conversation qu'on a eu. Le premier, c'est un jeu où il n'y a pas d'autorité. C'est-à-dire que les joueurs sont tous à égalité. Ils sont tous l'autorité, donc ils sont à égalité entre eux.
Ouais.
Et le cœur du jeu, c'est justement ça. C'est justement, ils vont pas être d'accord sur la résolution de certaines scènes, et donc c'est comment tu tranches.
Ouais.
Comment tu tranches, en fait.
Et souvent, c'est en sortant ton gun.
Dans un jeu tradit, on part du principe que tout le monde va avoir le même objectif. Là, c'est un jeu où clairement, tout le monde n'a pas du tout le même objectif, et on sait pas du tout lesquels c'est, et c'est complètement interprétatif. Et ça revient sur le deuxième point qui est, alors, les règles ne sont pas dites, mais il est dit, il y a un livre dans lequel toutes les règles sont écrites.
Ouais.
Et tu peux très bien dire, et c'est, en fait, c'est ce que le jeu invite à dire, dans le livre il est écrit, tu ne coucheras pas avec ta mère, mais il n'y a rien dit à propos du père. Très bien, bon bah écoute, c'est dit en fait, tu vois, et t'as ce pouvoir-là qui rejoint ce que tu évoques,
Valentin.
Sans aller dans l'excès de tout est écrit, et donc on est sur de l'interprétation, là tu peux le déclamer quoi.
En tout cas, je pense que on a fait le tour
de ce que je voulais dire.
C'est,
oui.
En tout cas, je pense que ce thème de l'autorité n'a pas fini d'être exploré par les game designers en herbe, par les gens. Là, ce serait intéressant aussi de s'intéresser à des situations spécifiques et des rapports de parties spécifiques sur les cas problématiques, parce que je pense qu'il y a encore à zoomer et à distinguer entre différents types d'autorité, tu vois.
Moi, je pense que c'est surtout intéressant de le voir en playtest de choses à venir, plutôt que vraiment de choses déjà vécues, quoi.
Ouais. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, pour les game designers, c'est sûr qu'il y a un nœud autour de l'autorité dans le jeu de rôle, ça c'est évident. Lucas ?
Mais tu parles de type d'autorité, mais peut-être que c'est d'autant plus saillant dans les fictions qu'on raconte en jeu de rôle, parce que c'est une autorité à chaud, quoi, qui en fait est un peu un conflit. Enfin, il y a une tension entre plusieurs personnes et tout.
Oui, puis
alors
dire
que,
c'est faire en jeu de rôle.
Voilà. Quoi, en fait, quand on consomme n'importe quelle autre fiction, on se soumet à l'autorité de la fiction, mais c'est une autorité qui est beaucoup plus froide et impersonnelle. Enfin, quand je lis un livre, je regarde un film, j'accepte d'autorité tous les événements qu'on m'impose,
oui.
Et qui composent la fiction et sur lesquels j'ai aucun mot à dire. Mais parce que, en fait, j'ai face à moi juste l'œuvre dépersonnifiée, voilà. Quoi. Et
t'as pas d'interaction, donc.
Un autre PJ ou un MJ, etc., face auquel j'ai l'impression de batailler ma volonté pour
mais donc, discuter ça veut
un
dire
peu
qu'il
le bout de la fiction.
Ça
quoi.
Veut dire qu'il y a une articulation entre l'autorité et la gentilité.
J'ai l'impression.
Et oui.
Ça me fait penser qu'effectivement, dans certains jeux à autorité partagée, où en fait, le partage étant un peu flou, il y a... Moi, je vis ces jeux-là parfois comme un combat où, quelque part, gagner pour moi, c'est influencer le plus possible la fiction.
Tirer la narration à soi. Mais c'est pour ça que je vous ai dit l'autorité sur la narration.
Et où ça pose ça me pose problème parce que j'ai l'impression de pirater le jeu, mais ça me pose problème dans le sens inverse où si je le fais pas, je m'amuse pas, quoi. Et que du coup, quelque part, penser l'autorité et, avec des périmètres clairs, et pas juste on est tous égaux, c'est aussi une manière de créer de la richesse.
Et donc il faut bien réfléchir. Ouais. Non mais c'est vrai, il faut bien réfléchir à comment l'autorité, y compris dans la fiction, est répartie.
Ah mais là on est prêt à survivre à la purge, hein. Enfin c'est bon quoi.
Voilà, le podcast est enregistré en pleine élection législative, donc on ne sait pas encore qui gouvernera la France et si elle sera gouvernable, d'où les blagues d'Adrien. J'espère seulement qu'elle ne tombera pas à plat à la rentrée, parce que ça peut être aussi un cauchemar à monter ce podcast, mon cher Adrien. Merci en tout cas, Natacha, de nous avoir apporté ce sujet de réflexion. C'était super intéressant de faire ce bout de chemin avec vous tous et toutes. Merci beaucoup, à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, jouez bien!
À bientôt!
Salut!
Ciao!
Voilà, c'était le podcast de la Cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt!